On va se gêner sur Europe 1.
16h, 18h30, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30, en effet pendant 2h30 aujourd'hui, Michel Bernier.
Bonjour.
Toujours prêté par le Théâtre de la Renaissance.
Oui, oui, oui.
Christine Bravo.
Bonjour.
Gérard Miller. Titoff. Et Pierre Bénichoux. Bon, j'ai quelques mails, là, parce qu'hier, Pierre et Christine, alors vous avez été vraiment trop durs vis-à-vis de Jean Ferrat, et beaucoup d'auditeurs réagissent, là, je peux vous dire.
Hein. Oh, ben,
bon, en même temps, je dois dire aux auditeurs qu'ils sont assez injustes envers nous, parce qu'on est, je pense, une des rares émissions à continuer à passer au moins une fois par jour une chanson de Jean Ferrat.
Et moi, je l'adore.
La plupart des radios sont arrêtées au bout du deuxième jour.
Hein, mais donc, oui
mais c'est vrai. Mais quand même, c'est vrai que, par exemple, j'ai un mail là, de Delphine qui dit « J'adore votre émission, que j'écoute tous les jours. » Mais hier, vous avez affirmé que les obsèques de Jean Ferrat étaient les premières obsèques à être retransmises en direct. Je tiens à vous rappeler qu'il y avait déjà eu les obsèques d'Yves Montand qui avaient été diffusées en direct. Oui, mais seulement les premières, je crois, pas les deuxièmes.
Les obsèques.
Non, c'est vrai, faut le dire à notre auditrice. Ouais.
Mais quand bien même aurait-on fait cette erreur, je vois pas en quoi c'est attenté à la mémoire de Jean Ferrat.
Je commence par une réflexion.
Ah bon, après, ça va être du lourd.
Il y a le et le ou.
En réaction, voilà. Un deuxième mail en réaction aux commentaires choquants de Monsieur Bénichoux et Madame Bravo à propos de la chanson La Montagne de Jean Ferrat. Sans avoir la prétention de pouvoir interpréter la poésie de cet auteur, il faut quand même remettre les HLM de l'époque dans leur contexte. 2010 n'a rien à voir avec 1964. Il faudrait donc montrer un peu plus de tolérance sur les paroles de cette chanson, Madame Bravo et Monsieur Bénichoux.
Ça n'a rien à voir.
Non, rien à voir. Ils n'ont rien compris.
Parce qu'en 64, les HLM étaient un progrès sur les bidonvilles.
Je n'ai que...
Donc je le dis et que je trouve pas bien, je le répète, que monsieur, qu'un communiste, comme Jean Ferrat, il faut choisir ce que l'on aime et rentrer dans la HLM, manger du poulet aux hormones.
Je n'ai que 32 ans, mais j'ai été bercé par monsieur Ferrat et je n'aime pas qu'on critique les chansons d'un si grand homme. Un, il faut faire la distinction entre ses chansons engagées et les autres. Deux, à l'époque, il était rare d'habiter à la campagne et de travailler en ville. Il fallait donc choisir pour devenir flic ou fonctionnaire. Il fallait rentrer dans son HLM et manger du poulet aux hormones. Heureusement, aujourd'hui, tout ça a bien changé. J'habite à la campagne et je suis devenu fonctionnaire dans une collectivité territoriale.
Il y avait du boulot pour tout le monde à l'époque. On pouvait choisir un boulot. On n'était pas obligé de rentrer dans son HLM et manger du poulet aux hormones.
Les bobos réacs que sont Bénichoux et l'éphémère instit à la solde de Coé n'ont rien compris à la chanson de Jean Ferrat. Il s'agissait à l'époque de lutter contre la désertification des campagnes au profit d'un hypothétique Éden dans les banlieues des grandes villes.
Qui écrit ça?
Ah ben c'est Pierre, par exemple.
J'y mettrais bien un coup de tête, moi, ce con.
Non. Ah non, vous n'avez pas frappé nos auditeurs, en plus, maintenant.
Non, mais j'ai du mal, parce que j'arrive pas à le trouver.
Pierre.
Mais comment on peut aussi mal interpréter
la pensée de quelqu'un?
Non, mais souvent, tu as une pensée confuse, ça, je l'ai remarqué. Moi-même, parfois, les gens me demandent d'expliquer, je passe des heures à expliquer ce que tu as dit.
Non, puis écoutez, bien de toute façon, c'était pas le moment. Cet homme vient de nous quitter, Jean Ferrat. Vous remettez en cause.
Mais j'ai dit, moi qui me suis presque battu ici pour dire à quel point il méritait me souvenir, piété, et même amour, et que c'était une partie de nous-mêmes qui partait, et qu'il avait fait descendre Aragon dans la rue, mais qu'il y avait une chanson, La Montagne, que je trouvais, comment dire,
parce que vous
en contradiction.
Pas.
Elle est magnifique,
parce
cette chanson.
Parce que vous n'aimez pas La Montagne.
Mais si,
de toute
mais
façon.
Mais de dire... Tout le monde voulait que je sois encore plus dur pour Ferrat. Tout le monde ne peut pas être un propriétaire terrien qui a des revenus tous les ans qui lui tombent de droit d'auteur et qui peut vivre.
Tu vas la fermer, oui.
Et de vivre en châtelain. Et les gens qui vivent dans le HLM ne choisissent pas d'y vivre.
De qui tu parles là?
Encore? Parle de ta sœur, connard. Écoutez, je veux pas me réénerver.
Ça y est, c'est reparti.
La fin de ton argumentation comme quoi il gagnerait de l'argent, enfin il avait gagné de l'argent, qu'est-ce que ça a à voir avec la sublime chanson qu'est La Montagne?
Parce que c'est sublime, c'est mon bonheur, c'est sublime.
Mais là,
c'est sublime pour un abruti chauve comme toi.
Non mais cool.
Ah non, vous n'avez pas commencé.
Calme-toi.
Pas le physique.
Quand tu commences les phrases par Becky,
je dois dire qu'il connaît la chanson La Montagne, mais est-ce que tu connais la chanson qu'il a écrite aussi sur la montagne pour faire du ski? Ça, c'est pas toi, tu es partisan du ski. Vas-y, lance-toi un peu sur le ski maintenant. Allez, fais-nous plaisir.
Une formidable chanson sur les ours aussi.
Oui, les ours.
Je suis d'autant plus déçu.
Et la mer, la chanson La Mer, elle est pas bien?
Je suis d'autant plus déçu.
Et sa reprise des Beatles.
Je suis d'autant plus déçu que je croyais que l'avorton serait de mon avis.
Personne n'a compris qui était l'avorton.
Non, là où je... Pierre, faut vous calmer en ce moment. On va vous donner des cachets, il y a quelque chose. Ouais. Déjà qu'on vous en donne un gros cachet ici, mais enfin là, je pense que...
Oh, justement, il faudrait qu'on renégocie tout ça.
Ah, j'ai un mail là, de quelqu'un qui me dit « Je serai à Toulouse, mardi 23 mars prochain à 21h pour le Printemps du Rire, Place de l'Europe. Amitié, signé Gérard. » Je ne sais pas qui c'est. Ça... Gérard Miller ?
Oui, absolument.
Vous envoyez des mails
mais
maintenant.
Oui, parce que je voulais être sûr que vous annonciez que je serai à Toulouse quand même mardi prochain au Printemps du Rire.
On aura vraiment tout vu.
Mais
alors,
oui, alors j'ai marqué G pour être discret. Mais en fait, c'est Gérard Miller.
Le Printemps du Rire,
GM.
Pierre.
T'aurais pu mettre GM aussi.
Le Printemps du Rire. Ouais. Est-ce qu'il y a deux mots qui vont aussi mal avec Gérard Miller que le printemps et le rire.
Non, c'était beau.
L'hiver de la connerie, mais pas le printemps.
Non. Tu as beaucoup aimé mon spectacle. Tu es très dur.
J'ai beaucoup aimé ton spectacle. Voilà. Et je t'aime beaucoup. Mais des fois, je suis obligé de te recadrer, mon petit gars.
Un dernier mail, cher Laurent. C'est la deuxième fois depuis le début de la semaine que vous invitez Gérard Miller. C'est vrai, Gérard était avec nous à Marseille. Laurent, ce serait pas un peu le jeu de la mort, votre émission? Car dès que Gérard Miller parle, l'auditeur reçoit une décharge.
Je n'avais pas pensé à cet aspect.
Vous avez regardé alors l'émission hier soir?
Je l'ai regardé en entier et je dois dire, j'ai été indigné.
Ah oui, aussi.
Mais indigné, pas du tout par évidemment la thèse qui est tout à fait légitime et importante. Mais personne n'a souligné le fait qu'on avait pendant. Qui sont les tortionnaires? Mais les organisateurs de l'émission. Ils ont placé des dizaines de personnes dans une situation de souffrance incroyable. Les gens pleuraient. On a vu ensuite dans le débat un jeune homme qui a expliqué que pendant des mois, il a été traumatisé par ce qu'il avait vécu. Vous savez bien, moi qui ai subi, comme quelques-uns de ceux qui sont à cette table, une émission, un jour, de caméra cachée.
J'y ai pensé.
C'était une indignité absolue où on nous a enfermés dans un ascenseur.
Que tu nous as infligé. Ouais. Que
ça
tu
y est, ça
nous
va retomber sur ma gueule.
J'y ai pensé toute la soirée. Tu es un tortionnaire.
Et vous alors, quand vous m'avez fait croire que c'est moi qui vous piégeais, que vous m'avez piégé.
J'ai été un tortionnaire. J'y ai pensé
aussi. C'est indigne, cette émission. Tout le monde dit, c'est l'honneur du service public de montrer qu'en effet, n'importe qui, entre guillemets, peut être un tortionnaire. Mais les vrais tortionnaires, c'était les organisateurs de l'émission. Évidemment que la thèse de fond est importante, mais on voit, ils ont pris des dizaines de personnes qu'ils ont traitées comme des rats.
Pas de panel.
Mais ils les ont traités comme des rats. Et il y avait derrière la vitre, comme dans ces pires expériences de psychologie, des spécialistes, dont un homme à grande barbe, enfin, qui parlait.
Peur.
Mais il était terrifiant.
Mais
et ils ont fait
souffrir. Elle est où la clinique, là
c'est monstrueux.
Dans la forêt, un truc un peu design.
C'est une honte, cette émission est une honte.
Maison d'architecte dans la forêt.
Se réveiller. Je serais vraiment intéressé que les journalistes aujourd'hui aillent interroger les dizaines de personnes qui ont
ils
été mis dans
cette.
Vous imaginez quand vous avez dû effectivement envoyer le courant. Qu'est-ce que votre entourage a pensé? Qu'est-ce que votre entourage a pensé? Qu'est-ce que vous-même vous avez pensé? Qu'est-ce que ces gens avaient demandé? Ils venaient pour un jeu et on les a placés pour toute leur vie dans une situation épouvantable. C'est une honte du service
public.
Une
honte du service public, je suis tout à fait d'accord. Et on leur fait signer une décharge. Tiens, c'est le cas de le dire. Tu sais, on leur fait signer un renoncement à leur droit à l'image pour que ce soit diffusé. Comment a
dites donc ceux qui sont survoltés aujourd'hui, c'est vous, hein.
Comment est-ce qu'on a pu les manipuler au point qu'ils acceptent diffusion de ces images? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur a raconté? Messie, ne vous inquiétez pas, 80% ont fait comme vous, je vous en supplie. Sinon, tous, absolument, auraient refusé cette diffusion à laquelle
Un peu comme moi, quand je vous dis, Messie, viens dans cette émission, tu passeras pas pour une conne.
Voilà, exactement. Et d'autre part, il n'était pas représentatif de la société française.
Ça n'est pas ce qui m'indigne le plus, mais Christine a raison. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient envie de participer à un jeu télévisé, ce qui est déjà une partie de la population,
voilà.
Qui ne connaissait pas l'expérience de 1000 grammes. Vous pouvez me dire, elle n'est pas très connue. Elle est quand même très connue.
Elle est quand même très connue.
Par tous ceux qui ont eu l'occasion, même pas de faire des études, mais au moins d'être un petit peu informés. Et en plus, quand tout le monde sait que l'électricité a été utilisée pendant la guerre d'Algérie pour torturer les Algériens, un jeu où on remet...
Pas seulement les Algériens, tout le monde est torturé à l'électricité.
Voilà, tout le monde est
torturé. Pourquoi croire que
le gaz est trop cher ?
Regarde l'EDF.
L'histoire française, ne me refais pas l'apologie de l'OAS, je fais l'histoire française. Donc c'est vrai que c'était pas représentatif. Mais le pire de toute façon, c'est avec quoi laisse-t-on maintenant ces gens vivre ? Et on a vu d'ailleurs, on a vu le nommé Nick, qui n'est pas un imbécile du tout, être assez embarrassé au début et essayer de dire, si vous avez cru que les deux personnes qui étaient sur le plateau sont des bourreaux, vous vous trompez. Mais évidemment qu'on a pensé que c'était des bourreaux, puisque l'émission
ils ont triché.
L'émission était
trichée.
Je vous assure que c'est. Je ne comprends pas.
Que bon, je trouve c'est pas bien, c'est qu'ils aient menti, c'est qu'il y avait pas vraiment l'électricité. C'est ça qui est pas bien.
On a triché encore.
La seule chose intéressante.
Tout, on ne peut pas prouver tout avec des moyens indignes.
On a compris.
Gérard, toi qui es psychologue. À la fin, excuse-moi Pierre.
Oui, vas-y.
Mais à la fin, il y a juste un détail. Quand le comédien qui crie dans la cabine vient les voir, les gens, même une fois qu'on leur a dit que c'est un canular, n'arrivent pas à le regarder.
Absolument.
C'est-à-dire que bien après, même 5 minutes après, quand il lui parle, c'est comme que des gens qui ont fait vraiment, ils sont encore dans justement la culpabilité, ils n'arrivent pas du tout à
moi,
le regarder dans les yeux. C'est incroyable. Et tous, hein.
Et le comédien leur dit, je ne vous en veux pas.
Je me demande quand même si on va pas installer autour de cette table, là, dans le studio, des chaises électriques. Ça m'arrangera un petit peu.
Il y a qu'une chose, à mon avis, que vous n'avez pas vu. Ce milligramme, il voulait montrer quoi ? Il voulait montrer comment le nazisme avait pu se faire jour en Allemagne. Et il disait qu'une fois qu'on est soumis à l'obéissance et qu'on accepte d'obéir, on peut obéir à n'importe quoi. Ainsi, cette fausse expérience qu'il avait tentée du moment qu'il y avait une autorité qui était l'autorité des blouses blanches, on disait oui. Il y a des gens qui, pour la télévision, disent non pas vous allez voir une bonne émission de télévision, mais nous allons vous montrer à quel point la télévision est dangereuse et à quel point elle peut induire, cette autorité de la télévision peut induire des comportements absolument aberrants et moralement injustifiables. Et il montre ça. Je trouve que c'est réussi dans la mesure où il montre que l'autorité de la télévision peut faire ça, mais je trouve que c'est honteux. Ce qui est honteux, c'est que pour montrer que la télévision peut être ignoble, ils font et ils gagnent de l'argent et ils travaillent, ils fabriquent une émission ignoble.
Ben voilà,
tu comprends ? C'est ça qui me tue. Maintenant que des gens appuient sur le bouton ou pas, je m'en fous.
Pourtant, que la montagne est belle.
Comment peut-on t'imaginer ?
Deux auditeurs patientent depuis un petit moment déjà. Ah ouais. Martine et Gilles, bonjour.
Bonjour.
On n'a pas le temps,
bonjour.
Vous avez perdu.
Bonjour.
Non, on va jouer Martine et Gilles très vite et on va faire connaissance avec vous, mais après la pub.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Martine de Germigny-sur-Loire dans la Nièvre et Gilles de Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise. Bonjour Martine à nouveau.
Bonjour Laurent.
Alors qu'est-ce que vous faites vous à Germigny-sur-Loire ?
Alors là si je vous le dis, je sens que ça va craquer. Je suis présidente d'un club de Scrabble. J'étais sûre que vous alliez rigoler,
ça,
mais j'ai pas que des mémés.
Voilà un beau métier moi je trouve.
Non, j'ai fini.
Mais vous avez la licence parce qu'il faut être licencié ou on apprend un DEA ou un master.
Oui, non, faut être licencié au Scrabble.
Alors attendez, il y a quelque chose qui m'intéresse, moi, au Scrabble, parce que chez moi, quand on jouait dans ma famille, la règle, c'est qu'on n'avait pas le droit de conjuguer les verbes. Vous conjuguez les verbes ?
On conjugue les verbes.
Trop facile.
Il faut déjà savoir les conjuguer.
Trop facile.
Parce que là, les Z, on peut l'utiliser.
Autrement, les Z, on les utilise trois fois, quoi.
Ouais, c'est pratique.
Ouais, mais trop facile.
Ah non, chez moi, je suis déçu, là.
Chez moi, on faisait les mêmes règles que pour les chiffres et les lettres. Pour
on joue comme les chiffres et les lettres en duplicat.
Ah ouais, ah ben voilà. Moi j'étais en duplicate moi alors.
Ouais.
Et combien vous avez de membres dans votre club, Martine ?
44 membres.
Ah oui, quand même.
C'est énorme.
Comme la déesse indienne.
N'importe quoi. Shiva. Voilà,
c'est ça doit faire du pognon ça.
Shiva, tu peux pas le mettre, c'est JV que tu dois mettre au Scrabble. Shiva, ça marche pas, Shiva.
Gilles est à Saint-Leu-la-Forêt. Bonjour Gilles.
Bonjour Laurent.
Je me demande ce qu'il fait là-bas.
Ah oui, alors vous, qu'est-ce que vous faites à Saint-Leu-la-Forêt ?
Dictionary ou...
Président dessus de coup ?
Non, pas du tout, pas du coup. Je suis dans le gardiennage, je suis maître chien.
Maître chien, ça alors, quel genre de chien vous avez ?
J'ai un canet corso.
Ah, ils sont beaux les canets corso.
C'est un chihuahua, un yorkshire. C'est le plus gros chien de la Terre.
C'est beau, ils sont beaux les canets corso.
Ouais, c'est très c'est
Et
très
alors
beau.
Vous surveillez quoi par exemple?
Oh, bon, de tout, des immeubles, déchetteries, des chantiers.
Votre chien
aussi.
Oui, en gros.
C'est le premier truc qu'il faut surveiller. Hein, des
gens. Gilles, Martine, vous avez un petit message à faire passer avant que je vous pose la première question qui vous emmènera, peut-être, allez savoir, à Port-Fréjus, dans le Mercure Thalassa, 3 étoiles de Port-Fréjus, pour une semaine de thalassothérapie.
Non, mais ça serait formidable.
Oui, ça serait très bien.
Ah bah, oui. Les chiens ne sont pas autorisés. Hein.
Je arriverai à le confier, vous inquiétez pas.
Bon, je vous le dis, Gilles, au
Moi,
passage.
Je vous garde votre petit Wawa, si vous voulez.
Bah, il fait 70 kilos. Combien, ouais.
Il fait 70 kilos, c'est rien.
Oh, bah, il a besoin d'une bonne thalasso, voilà.
Comment il s'appelle?
Gorille.
Bon, en même temps, il n'allait pas s'appeler Plume.
Ça vous embête pas si je l'appelle aussi quand il est pendant les 4 jours où il est avec moi, je l'appelle Minouche.
Il va revenir tout bizarre, votre chien.
Après, vous allez prendre Pierre pour surveiller.
Attention, voici la question. Carole Anne Duffy est poétesse royale. Mais à propos de qui vient-elle d'écrire un poème? Ah bah là, quoi, alors là
On sent le mec qui a déjà baissé les
alors,
bras.
Évidemment, il a baissé les bras, le
évidemment,
gorille.
Évidemment, ça n'a rien à voir avec la royauté.
Non, elle est poétesse
oui,
royale.
Donc, elle a fait un poème qui n'a rien à voir avec la royauté.
Non, non. C'est que, en fait, chaque année, la reine d'Angleterre désigne oui. une poétesse.
Comment elle s'appelle?
Carole Anne Duffy.
Vous voulez qu'on épelle?
Et de temps en temps, donc, elle fait un poème sur l'actualité oui. de la Grande-Bretagne. Et c'est vrai qu'elle s'intéresse rarement, finalement, à ce qui se passe...
Mais c'est elle, là,
au sein, la, au sein de la cour royale.
Et pour une fois, là, c'est un poème qui n'est pas sur la Grande-Bretagne.
Si.
Sur Beckham.
Sur Beckham, bonne réponse de Titoff. Une ode royale.
Méfie-toi si tu vois un gros chien passer, Titoff.
C'est normal que Titoff qui répond, c'est un joueur de football. Alors.
Rien à voir, j'ai fait une déduction.
C'est un grand poète.
Je suis désolé.
On ne dit pas sur Beckham, on dit à vélo, on dit.
C'est une ode royale pour consoler David Beckham qu'a écrit la poétesse Carole Anne Duffy, grande fan de football elle-même, voilà, et elle compare le joueur de football de l'AC Milan, hein, c'est ça, il était à Milan, oui. Beckham, hein. Ouais, ouais, ouais. Elle le compare à Achille, le beau et vaillant héros de la guerre de Troie. Sans lui, ils ne pourront prendre Troie, et elle compare ça au fait que sans Beckham, l'équipe d'Angleterre ne pourra pas gagner la Coupe du Monde. J'ai même le poème là qu'elle a écrit, si vous voulez.
Ah,
hein.
En anglais, en anglais, en anglais.
Excuse-moi, on pourrait jouer
en anglais. Ah non, c'est une torture.
Il faut que vous traduisiez le poème que j'ai parce que moi je comprends. Pas, hein. Miss Weaver, where is mother dipped him, fished him?
C'est en allemand, tu le lis. Non, non, non. Tu l'as traduit.
Fished him?
A slippery golden boy floated on.
Ah oui, c'est, je reconnais, c'est le discours d'Hitler à la mort
mais
de Goebbels.
Oui.
His name on his lips. Without him, it was prophesied. They would not take Troy. Troy.
Alors Troyes, on peut dire Troyes.
Je sais pas comment on dit Troy en anglais.
Troy.
Là, vous avez à peu près compris que sans lui, il ne gagnerait pas Troy.
Voilà, la guerre de Troy, ça s'appelle.
C'est la prophétie. Son nom est sur toutes les lèvres. Voilà, l'homme au slip d'argent, je sais pas où. A slippery golden boy float, je sais pas ce que ça veut dire.
Avec alors des fleurs sur le slip.
Tu traduis tout de suite.
Mais Cam, il a toujours des fleurs sur son slip.
D'or, d'ailleurs, pas d'argent. Les couilles en or, ça doit être ça, les couilles en or. Woman hid him. Ça veut dire quoi, ça? Woman hid him.
Quand ça s'appelle hid, comment tu
H-I-D. H-I-D. Woman.
Ah ouais, hid him.
Woman caché.
Concealed him in girls.
C'est en espagnol d'un coup, là.
Concealed. Concealed, je pense ça veut dire. Concealed him in girls' sarongs. Days of sweetmeats, spices, silver songs. Ça rime pas, hein.
Non. Mais peut-être que traduit en français, ça rime.
But when Odysseus came with an athlete's build.
Ah oui.
Bid, oui,
a sword and a shield, he followed him to the battlefield. The quads were.
Pas un mot bien prononcé.
Pas un seul.
Sword, not war.
Et ils vont aux États-Unis.
But so it's a mountain alors, beautiful. How can we not imagine it? Gripping on the mountain. That the autumn is just arrived.
applaudis. Qui parle le mieux anglais ici? Parce que c'est bien gentil de vous moquer, mais tenez Gérard, prenez-le le poème, on va voir si... Faites votre malin, tiens, je voudrais vous y voir, tiens, lire ce poème de la grande...
Et avec le ton, s'il te plaît, hein? Si tu veux du monde le 23, on va t'endurer.
Un poème officiel de Carole Anne.
Where is mother dipped him, fished him, a slippery golden boy flowered on
Hamlet.
The name of the lips... Without him, it was prophesied.
Toupsy, Arnaud, Toupsy.
Try.
That is
woman
a Christian.
Hid him, conceal him in girls' sarongs. To be or not to be, that is the question. Whether it is noble in the mind to suffer slings and arrows of times.
Moi, je propose qu'on l'applaudisse. Parce que connaître aussi bien l'anglais quand on est un simple psy, je trouve que c'est formidable.
A shrink.
Bon, en tout cas, c'est perdu, Martine et Gilles.
Oui,
c'était pourtant à la une du Figaro aujourd'hui. Hein.
Et pourtant, je l'ai épluché, alors j'ai pas vu. Mais j'aime pas Beckham, moi.
Ah bah pourquoi ?
Je sais pas, il me plaît pas.
Oh bah alors, dis donc.
Je fais partie de tête des rares.
Et t'as déjà écrit sur du plus mauvais papier.
Pourtant, au Scrabble, Beckham, ça rapporte.
Non, ça compte pas, ça.
Ça compte pas, les noms propres.
Ah oui, alors. On conjugue pas un nom propre.
Nous, à la maison, on jouait avec les noms propres. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Bonjour Paul.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Alors, pas mal d'enquêtes aujourd'hui. Attention, j'ai du lourd pour vous.
Ouais.
Vous savez évidemment que Simone Veil fait son entrée à l'Académie aujourd'hui. On avait d'ailleurs posé une question à nos auditeurs il y a quelques jours. C'était un des challenges, à savoir où Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing seraient réunis. La question, c'était ça. La réponse, c'était à l'époque, sous la coupole pour l'intronisation de Madame Veil à l'Académie, la réception de Simone Veil. Et puis en fait, on lit dans la presse aujourd'hui que le président Sarkozy a renoncé. Giscard et Chirac y seront, mais Nicolas Sarkozy n'irait plus. Et d'après le Figaro, on nous dit que c'est parce qu'il aurait pris ombrage des critiques faites par Madame Veil après la nomination de 3 hommes au Conseil constitutionnel. Elle avait dit que ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas de femmes nommées. Bon, c'était pas non plus violent. Alors, est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy ne va pas, qu'est Conti aujourd'hui, saluer Madame Veil comme le font les deux autres anciens présidents, non pas qu'il soit ancien président lui-même pour l'instant, mais en tout cas, c'est vrai que
pour ça, qu'il
ça aurait été l'occasion de voir les trois réunis.
Laurent, ça c'est une information vraiment à vérifier, parce que l'argument me paraît très faible.
Hein. Moi aussi.
Je connais les relations entre le président et Simone Veil, qui sont très affectueuses, mais il faut que j'enquête avant de vous dire des choses.
Vous savez ce qu'elle a fait graver sur son épée, Madame Veil ? Allez-y.
Son numéro de déportation.
Exactement, elle a fait graver le numéro 78651, son matricule de déporté. Bravo, vous avez bien lu la presse, Christine.
Non, mais ça m'a marqué, je trouve ça incroyable.
Moi, ça m'a choqué.
Pourquoi ?
Parce qu'on ne théâtralise pas ça. On garde ça au fond de soi. On ne met pas graver par un orfèvre.
J'oublie pas.
Il faut pas oublier.
Voilà,
bien sûr.
C'est tout. Mais c'est ce qu'il dit.
Le mettre sur cette épée à 3 millions.
Ça pas mal.
Je trouve ça bien.
Moi qui ai connu beaucoup de déportés qui à l'époque mettaient, quand on allait à plage, beaucoup des amis de mes parents quelques-uns qui étaient revenus, mettaient un petit sparadrap sur le numéro parce qu'ils en avaient honte. Et qu'aujourd'hui, effectivement, quelqu'un à la fin de sa vie, parce qu'elle est quand même très âgée, puisse finalement réévoquer ces chiffres terribles. Je trouve ça assez émouvant.
Oui, Paul.
Je peux vous faire une confidence un peu privée ?
Je vous en prie.
Ma mère, qui est sortie vivante des camps, eh bien, la première chose qu'elle a faite en sortant des camps, c'est d'aller voir un chirurgien pour faire enlever ce numéro.
Ah oui.
Mais t'es fâche, toi.
Il y a des chances, oui, tu vois.
C'est le tien, mon Laurent.
J'ai un juif de plus dans cette équipe.
À moins qu'il soit tzigane, homosexuel.
Moi, j'avais des... ou handicapé.
Moi, j'avais des quotas. Oui. D'un seul coup, je suis obligé de me séparer de vous. Hein.
D'un seul coup, quoi.
Ben oui, alors, je vous lis plus dans France Soir. Paul, qu'est-ce qui s'est passé ?
Écoutez, je suis en train de respirer l'air du temps. Je suis en train de réfléchir à mon avenir dans la presse quotidienne.
Ah oui,
j'en dirai plus bientôt.
Bah justement, j'ai aussi une deuxième question sur la presse. Sort aujourd'hui un nouveau magazine féminin qui s'appelle Bi, destiné aux 20-35 ans. Donc vous pouvez le refermer, Christine.
Et moi, je l'ouvre.
C'est pour les 20-35 ans de carrière, ça marche pas.
C'est ce qui est écrit, c'est pour les 20-35 ans, les femmes de 20-35 ans, c'est-à-dire notre groupe, le groupe Lagardère qui lance ce magazine. Sauf que dans le journal, dans le Parisien, pour être précis, je lis que la marraine de ce nouvel hebdomadaire est Paris Hilton. Alors là, moi, je voudrais savoir pourquoi Paris Hilton, puisque c'est un hebdomadaire français. Et puis surtout, ça veut dire quoi, marraine? Ça veut dire qu'elle va y écrire, elle est rédactrice en chef, elle vient à l'inauguration. Que vient
facile.
Faire?
Je vous dirai tout. Je connais bien son bureau, les gens de son bureau.
Ah, vous connaissez bien Paris Hilton?
Oui. Non, elle, je connais un petit peu. J'ai croisé deux fois, mais je sais exactement ce qu'elle fait. Je vous dirai.
Moi, je croyais que vous. Je croyais que vous étiez plus proche de Madeleine Formule 1 que de Paris Hilton. Ouais. Moi, vous voyez.
Dunkerque Ibis à un moment. Non, t'étais pas Dunkerque Ibis.
Pourquoi ils appellent ce journal B? J'ai pas compris.
Bi. Être.
Ah, bah, c'est soit, en anglais en plus.
Ah, c'est bi.
Bi, c'est être.
Mais non.
Moi, je crois que c'était bi et que ça voulait dire ceux qui aiment autant les filles que les garçons.
Non. Oh, ça aurait fait du monde en même temps.
C'est deux fois plus de lecteurs.
Je me suis toujours demandé si tu étais bi, toi.
Ça dépend.
Ça, c'est très drôle comme c'est réponse. Drôle. Est-ce que tu es bi? Ça dépend. Ça, on ne peut pas faire mieux.
C'est bien, oui.
C'est peut-être le mot le plus drôle que vous ayez eu depuis très longtemps, Pierre. Ouais. Vraiment, je tiens à insister, je le note.
C'est très bon. Ah non, je suis d'accord avec lui.
C'est fin.
C'est ce qui est vraiment un trait d'esprit. Je l'ai vu d'ailleurs naître en toi par hasard. Non, tu es toi-même, tu as écouté ce mot d'esprit comme s'il venait d'un autre, mais il est remarquable.
Continue à me parler, je bande.
Un mot sur Christine Pujol. Maintenant, j'aimerais, cher Paul Vermus, que vous l'appeliez, puisqu'il paraît que, bon, certes, elle peut plus aller aux toilettes, puisqu'on a verrouillé la porte des toilettes de cette femme qui s'auto-séquestre. Hein, elle n'est pas enfermée par d'autres. C'est elle qui a décidé de s'auto-séquestrer dans le 8e arrondissement, rue d'Anjou, dans son bureau, son ex-bureau, puisqu'elle n'est plus présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Alors, on sait qu'elle se fait ravitailler par la fenêtre. On en a déjà parlé il y a deux jours. Hier, on a dit, évidemment, qu'on lui avait verrouillé les toilettes. Elle peut plus pisser. Alors, d'abord, tiens, voilà, comment elle fait pour aller aux toilettes?
Ah, il peut parler d'une enquête, 35 ans de journalisme, et comment Madame Pujol peut uriner? Ah, ben, j'ai rien de moi.
Bah, déjà, vous pourriez lui proposer d'aller faire caca chez Paul.
À mon avis, elle fait dans la corbeille à papier.
En plus, il y a son assistante. Elles sont deux dames dans la même situation. Parce
oh, alors, c'est facile. Alors, je vois le coup.
Oh non, Pierre.
Et, oui, monsieur.
Et comme elles ont encore un téléphone portable, peut-être vous pouvez l'appeler, Paul. Pour,
elles n'ont pas une application, faire pipi dans le téléphone.
Non, franchement, Paul, là, c'est dans vos moyens, ça, quand même. Et puis, peut-être même si vous avez le téléphone, on la prendrait, nous, au téléphone.
Bien sûr.
Ah, je vous jure, on le fait, hein, Paul.
Bon,
hein. Là, ce serait, et à mon avis, ce serait le scoop du jour.
Hein. Non, mais ce qui serait pas bien, c'est que pour qu'elle soit sûre qu'elle vienne au téléphone, qu'elle dit qui c'est, tu dis c'est le plombier. Non, c'est pas gentil. Une femme privée de chiottes à qui tu dis c'est le plombier, elle cède.
C'était mieux la plaisanterie de tout à l'heure.
On apprend aussi dans Le Parisien aujourd'hui qu'à 6 mois de la première du spectacle Mike, laisse-nous t'aimer, un spectacle consacré à Mike Brandt, ouais, la production serait toujours à la recherche du chanteur qui devrait interpréter, puisqu'évidemment ça ne sera pas Mike Brandt, hein, le pauvre est mort.
Il est mort.
Il cherche un mec de chez Caparca.
Depuis 1975, qui va jouer le rôle de Mike Brandt. Ça me paraît étonnant qu'à un mois du début du spectacle, ils n'aient pas trouvé. Alors est-ce que c'est un coup de pub pour nous parler du spectacle, ou est-ce que c'est vrai que les candidatures peuvent être envoyées au Théâtre Comédia à Paris, puisqu'on nous dit qu'on cherche encore celui qui va jouer Mike Brandt? Et si c'est le cas, j'aimerais savoir quels ont été les chanteurs qui se sont proposés et qui ont été refusés, parce que à mon avis, il doit y avoir quand même une pléiade de chanteurs qui ont...
Des anciens Starac, des anciennes nouvelles stars,
c'est évident,
des Miss Rousseau,
je crois que Jean Ferrat, puis hop, je pense qu'il est...
Il faut avoir une vraie stature, Laurent, il faut mesurer 1m87,
cascadeur aussi.
Ouais. Faut peser 86.
Faut pas avoir le vertige.
Parce qu'il faut quand même se jeter du balcon tous les soirs.
Et 5 étages, faut le faire.
Plus,
hein,
trois fois, parce que je crois qu'il a essayé 3 fois en plus.
Deux fois, c'est déjà pas mal. Hein.
Deux fois.
Vous savez ce qu'il avait dit, Coluche, quand Claude François est mort? On savait que c'était un mauvais chanteur, maintenant on sait que c'est un mauvais électricien.
Mais c'est pas sur Claude François, c'est sur Mike Brandt.
Ouais, mais ça fait rien, ça s'appelle. Ça s'appelle l'association d'idées, c'est un truc qui...
C'est sa culture.
Sais.
Non, en psychiatrie, ça s'appelle le coq à l'âne, et c'est un signe de dégénérescence mentale assez grave. Hein.
Pierre préfère le coca zéro au coq à l'âne.
Coca light.
Attention, Paul, ça vous fait 4 enquêtes, hein.
Ouais, c'est une de plus, hein.
Voire même une interview téléphonique qu'on pourrait réaliser dans l'émission grâce à vous. Et pour ça, croyez-moi.
Vous n'êtes pas la peau de l'ours, hein. Vous n'êtes pas là.
Mais il est déjà parti, dis donc.
Mais non, faut que je parte maintenant.
Alors qu'il a même plus de boulot ailleurs.
Soyez gentil, soyez aimable. Laissez-moi travailler, mais sereinement.
Bon, d'accord, Paul. Je compte sur vous parce que là, moi, je trouve que c'est des vraies bonnes enquêtes que je vous propose, quand même.
Comme chaque fois, d'ailleurs.
Ah, ben oui, mais. Qu'est-ce que j'aurais pas fait pour relancer votre carrière, Polo, hein?
Je sais, je dois beaucoup, je le sais.
Tiens, d'ailleurs, il serait temps que vous me remboursiez.
À tout à l'heure
avant 18h, Paul. Monsieur Mitroglou nous a fait peur hier. Pourquoi Monsieur Mitroglou nous a-t-il fait peur?
En un seul mot, Mitroglou, oui, Mitroglou. C'est parce qu'il a marqué un but contre Bordeaux.
Ouais, bonne réponse de Tito. Bon, faut dire que les questions foot, évidemment, hein, c'est pour Tito.
Moi, j'aimerais pouvoir répondre comme ça. Vous avez vu l'assurance qu'il avait? Il a baissé les yeux, c'est du genre.
Olympiakos. Puis il faut que tu t'intéresses un petit peu à l'actualité.
C'est un grec, monsieur Mitroglou, effectivement, à la 65e minute, il a égalisé contre les Girondins de Bordeaux. Le premier but avait été marqué par Gourcuff dès la 5e minute de jeu. Et puis, heureusement, à 2 minutes de la fin, Chamac a marqué un magnifique but de la tête qui a rassuré, évidemment, tout le monde. Même si, de toute façon, à 1-1, ils étaient qualifiés, les Bordeaux.
Ouais, mais quand même, le but libérateur.
En tout cas, ça nous fait deux clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Champion.
Ce qui est bien, ouais. Ce qui n'est pas arrivé depuis.
Ah, ça, 1964, je crois.
Non, 2003-2004.
2003, c'est pareil.
À 40 ans près.
Ouais, il y a un 4 dedans.
2003-2004, mais c'est déjà.
Est-ce que vous êtes capable de me dire les deux clubs qui s'étaient qualifiés pour les quarts de finale en 2012?
Non. Bordeaux?
Non.
Lyon?
Il y avait déjà Lyon.
Lyon et Marseille?
Non, pas Lyon et Marseille, c'était Lyon et Monaco à cette époque-là.
Monaco, bien sûr.
Et Monaco était même allé jusqu'en finale.
Ah oui, c'est quand Deschamps a entraîné Monaco.
Et ils avaient perdu contre le FC Porto en finale de la Ligue des Champions.
Voilà. À Mourinho.
Non, mais moi, j'essaie de vous informer, les filles aussi.
Ah, c'est bien.
Qu'est-ce qu'il y a? On s'en tape, Christine.
Elle ne travaille pas du tout.
On n'y arrive pas. On essaie de s'intéresser, mais on n'y arrive pas.
Bon, alors, je vais vous parler d'un Havre. Voilà, ça va vous intéresser.
Ah, voilà.
Un Havre dont le nom n'a pas été retenu par toute la presse. Et pourtant, lui aussi, Florent Saint-Martin, vient de faire quelque chose que quelqu'un de beaucoup plus connu que lui a fait aussi, mais lui ne fait pas la une des journaux, comme l'autre personne qui a fait la même chose.
C'est un politique.
Qu'a fait Florent Saint-Martin?
Il a obtenu un très bon score aux dernières élections.
Non, ça, ils sont plusieurs.
Ça a à voir avec le MoDem?
Ça a à voir avec le MoDem.
Ah, il a quitté le MoDem comme Corinne Lepage.
Excellente réponse de Titoff. Il n'y a pas que le football.
Mais
hein,
bien, non, mais Titoff, moi je dis c'est Pic de la Mirandole, Titoff.
Vous pouvez expliquer Pic de la Mirandole?
Pic de la Mirandole, c'était un érudit. Évidemment, il a vécu à une époque où il y avait peut-être moins d'informations qu'aujourd'hui, mais qui savait tout sur tout. Et moi je l'ai appris parce que quand j'étais
enfant. Pourquoi vous riez, Christine?
Quoi?
Parce que quoi?
Pic de la Mirandole, c'est magnifique, non?
Mais c'est très connu. Et là, quand j'étais enfant, connu, il y avait. Je me souviens très bien, à l'époque de la télé noir et blanc, il y avait un jeu du genre Question pour un champion à l'époque. Et il y avait un type qui était brillantissime, et à chaque fois que tout le monde le félicitait, il disait: je ne suis pas Pic de la Mirandole. C'est bien que j'ai découvert ce personnage.
C'est pas Pic de Mirandole, c'est Pic de la Mirandole.
Pic de la Mirandole, c'est ce que je dis.
Pic de Mirandole.
Non, Pic de la Mirandole.
Pic de la, vous n'entendez pas le
pas du tout, j'entends très bien le la.
Non.
J'entends le do, le ré, le mi, le fa, le la. Mais là, il ne l'a pas dit.
C'est Pic de la Mirandole.
Florent Saint-Martin est conseiller municipal au Havre, et il a décidé, il était même président du MoDem en Seine-Maritime, et il a décidé lui aussi de démissionner du parti de François Bayrou. Ça va mal pour François Bayrou.
Non, ça va pas mal. Il préfère être tout seul plutôt que de s'emmerder, tout ça.
En même temps, le orange, ça va pas à tout le monde. Hein, aussi. C'est des couleurs, ils choisissent des trucs aussi, des codes couleurs bizarres.
Non, quand même, là, il n'y a plus qu'un candidat, c'est M. Jean Lassalle, en région Aquitaine.
Oui, mais il est sympa. Hein.
Vous l'aviez reçu dans votre émission à la télé.
Il chante des chants.
À l'époque où il avait fait la grève de la faim, il était vraiment touchant.
Ah,
oui, touchant.
Il chante Benzao de Pao.
Ah non, elle va nous faire les chants régionaux maintenant.
Non, ne croyez pas ça, j'ai arrêté de chanter.
Ah oui.
Pour la vie, je ne chanterai plus jamais.
Mais pas parce qu'il cherche un Mike Brandt, Pierre.
Non, mais c'était bien, Mike. Je n'ai aucun souvenir des chansons de Mike Brandt.
Vous pourriez chanter Laisse-moi m'aimer.
Yeah. est-ce que vous raillez, vous raillez mon égoïsme et l'amour que je me porte, laisse-moi m'aimer M apostrophe.
Les deux.
Ou laisse-moi m'aimer que je me bagarre avec un autre pensionnaire de l'asile et que je dis non, laisse-moi m'aimer.
Les deux.
Prends Georgette, laisse-moi m'aimer.
Qu'est-ce qui va coûter au moins le double d'une année classique cette année, alors que l'hiver vient de se terminer ou va se terminer dans quelques jours?
C'est lié à la consommation d'électricité de chauffage?
Non,
ou quelque chose
non.
D'aussi,
non.
Alors moi je sais ce qui va me coûter le double. Hein.
Ah, c'est quoi?
Ah ben c'est tous les géraniums que j'ai rachetés l'année dernière parce qu'ils avaient gelé l'année d'avant. Et là ils ont tout regelé. Ah
ouais. C'est le seul bac qu'elle a eu, le bac géranium.
Stevie sort de ce corps.
Mais tu les as bien couverts?
Oh, mais tu peux pas, ils sont crevés là. Il y a eu trop de gelée, j'ai découvert, j'ai recouvert. Ouais. Si tu recouvres trop, ça moisit. Le bordel, j'en ai pour une blinde en géranium.
Elle a failli faire comme Mike Brown, se jeter de son balcon quand elle a vu l'état des géraniums.
Les seules plantes correctes maintenant qui tiennent le coup, c'est les bambous.
Oui, même quand on a marre, il faut aimer le bambou. Hein.
Ça meurt jamais
spécial,
le bambou.
Les plantes en plastique.
Tu peux pas offrir un bouquet de bambou.
Voilà.
C'est pas le bambou s'accroche, tu le jettes dans le vide.
Offrir un bouquet de géranium, c'est pas top non plus. Non, mais c'est au moins ça fait de la couleur, c'est joli sur les balconniers. Regardez en ce moment,
Christine a gagné le balcon le plus fleuri du 6e arrondissement l'année dernière.
Oui. Ah, mais les bambous, c'est la plante la plus costaud.
Mais
quand
t'en
as marre, tu le jettes dans la poubelle, il pousse dans le vide d'ordure, il rentre par la fenêtre.
Et il fait, tu croyais que tu m'avais jeté?
Ça accroche, hein.
Aimer laurier.
Autant les bonsaïs, c'est fragile, mais les bambous.
Ah, parce que vous avez des lauriers aussi.
Mais oui, j'ai des lauriers.
Pour une fois. Si vous pouvez t'endormir dessus, je serais bien content.
Mes glycines et tout.
Pas de contrepétrie. Hein.
Non, pas du tout, mais tu te rends compte qu'on est là, qu'on a comme interlocutrice, je ne parle pas des autres, mais comme interlocutrice favorite, parce que moi, je trouve jolie, je trouve intelligente. Et tout.
Une femme les fleurs, qui fait le concours
pour le balcon le plus fleuri du 6e arrondissement.
C'est minable. Je donne plaisir aux tous les immeubles qui sont. Tous mes voisins.
Écoute, sur tes balcons, il y a des barbelés, toi.
C'était drôle, je me dis, t'es minable.
Il y a un mirador.
Je suis minable et lui, il fait exactement. C'est le mot que tu cherchais pour me définir. Hein?
Poésie.
Pauvre merde.
Ah non, mais au concours des insultes, ici, on est premier.
Non, mais non, c'est pas le concours des insultes. Mais à vous qu'il y a quelque chose d'un peu...
Il n'y a rien de plus beau que les gens qui mettent des fleurs sur les balcons.
Mais oui, enfin, tu donnes du plaisir aux voisins, ils regardent.
Nous, on a d'autres façons, Pierre et moi, donner du plaisir aux voisins.
Est-ce que tu plantes tes géraniums à poil? Il faut savoir.
C'est vrai que
tiens, il y a du monde au balcon aujourd'hui.
Ça fait deux fois du plaisir.
Donne-moi du plaisir, bébé.
Non, mais Pierre ne peut pas comprendre ça. Non seulement, effectivement, il y a des barbelés sur tes balcons, mais lorsqu'on sonne à ton interphone, ça m'est arrivé une fois, on reçoit une décharge électrique.
Et puis il y a Gorille, le chien, qui attend.
Et qui te mord. C'est vrai, tu ne reçois personne depuis 47. Il n'y a plus personne qui est monté dans ton appartement.
Non, j'ai arrêté en 43.
Enfin donc.
Bon, en tout cas, ça n'a rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce qui va coûter deux fois plus cher? Ça n'a pas commencé les dépenses. Là, ça commence maintenant parce que ça y est.
Et c'est le froid ou pas?
C'est à cause du froid, à cause de l'hiver.
Qu'est-ce qu'on va
Et les départements, l'État, les communes.
Ah bah je sais. Ah, c'est routes, l'eau, les robinets, non. Les robinetteries.
C'est l'asphalte, les routes.
Ah oui, c'est ça.
Mais alors, plus précisément.
Le goudron.
Le sel. Non, le sel a bouffé les routes.
La voirie.
Le déneigement.
Le bitume.
Oui, mais il y a une expression, moi, que j'adore, c'est les. Alors.
La voirie.
Non, il y en a
à côté.
La maréchaussée.
Il y en a des milliers sur les routes en ce moment.
Non, la maréchaussée.
Les nids de poules.
Les nids de poules. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
Eh oui, alors ça, je comprends pas.
Il n'y a pas que les maisons de putain, il y a les nids de poules.
Est-ce qu'il faut rouvrir les nids de poules? C'est une question.
Les nids de poules.
Ou les dodanes, ou les cassis.
Mais ça vient d'où cette expression?
Mais oui, parce que je vois pas.
Mais parce que les poules,
les poules se mettent là-dedans.
Elles grattent la terre, elles font vraiment un trou dans la terre pour pouvoir pondre.
Sur les routes.
Mais non.
À la direction des infrastructures de transport qui gère les 12 600 km de routes nationales, on s'attend à devoir investir plus de 50 millions d'euros au lieu des 25 millions d'euros habituels après un hiver normal. Là, l'hiver a été plus rude.
Alors je sais pas pourquoi. Hiver plus pourquoi rude, plus de nids de poules.
Eh ben oui. Ah
oui, il y a plus
oui,
de
parce,
neige.
Parce que les routes s'abîment avec le froid.
En tout cas, c'est vrai. Pierre l'a dit à propos des nids de poules, à ne pas confondre avec les maisons closes. Il y a une dame qui s'appelle Chantal Brunel, qui est députée UMP, qui veut. Enfin, elle veut pas. Elle dit qu'elle veut réfléchir au fait que peut-être ce serait une bonne solution de rouvrir les maisons closes disparues depuis la loi du 13 avril 1946, la fameuse loi Marthe-Richard. Et elle dit, en attendant un monde idéal, bah, il faut peut-être mieux mettre en place un système qui protège le mieux possible les prostituées. Vous êtes d'accord, vous, Christine ?
C'est compliqué. Hein. Oh là, c'est mais compliqué. J'ai l'impression que tous les 10 ans, ça revient ça, sur le plateau et on en fait rien.
Je ne sais pas. Je sais que c'est très bien qu'il y ait des prostituées.
De toute façon, des maisons closes, il y en a déjà, je veux dire.
Mais non, il n'y en a pas.
Non, mais elles ne sont pas officielles. Non, non, il n'y a pas de maisons closes.
J'entends bien, mais il y en a très peu. En revanche, même, il n'y en a pas du tout. En France, moi, je ne connais pas. Cela dit. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut dire les choses.
Il a cherché.
Mais non, je n'ai pas cherché. Bon. Je sais qu'il n'y a pas de bordel comme avant.
Il n'a pas cherché, il n'a pas trouvé. C'est pas vrai.
Je veux dire que c'est la chose la plus monstrueuse au monde de dire dans un pays de démocratie, de liberté et de promotion de la liberté de la femme, de dire qu'on veut des bordels. Alors je sais bien qu'on dira que ça fera moins de maladies vénériennes, encore que on dira que ça fera moins d'assujettissement à des macros. C'est faux. C'était des prisons, ces bordels. Oui. Pour trois bordels formidables dont on parle, on disait le roi d'Angleterre, il a sa chambre et tout ça, qui était le Chabanais, le One Two Two et le Sphinx, qui étaient les trois maisons. Moi, j'ai lu des bouquins là-dessus. Hein. En 46, j'avais pas l'âge d'aller au brique, quand même.
Il était sous Brett.
Le brique, on dit un brique, bon.
Oui, j'adore.
Bon, en Algérie, c'était ouvert. Bon, mais il est évident qu'indépendamment de ces trois maisons-là où il y avait les demi-mondaines formidables qui recevaient des gens, le reste, c'était des maisons d'abattage où les bonnes femmes étaient en prison. Elles ne pouvaient pas sortir. Elles étaient...
Non, tandis que là, Chantal Brunel, elle dit, d'ailleurs, j'ai entendu ça dans la...
Chantal Brunel, oui, Brunel, elle a jamais travaillé chez moi.
Dans la revue de presse de Michel...
Je sais pas ce que c'est que la discipline.
Dans la revue de presse de Michel Grossiat, j'ai entendu ce matin, il citait l'interview de Madame Brunel, la députée UMP de Seine-et-Marne, qui est une charmante dame, d'ailleurs, elle, c'est pour le bien de la femme. Hein. D'ailleurs, elle vient d'écrire un livre qui s'appelle justement Pour en finir avec les violences faites aux femmes. Ouais, mais elle dit, voilà, on peut imaginer que voilà, les femmes prostituées se regroupent à plusieurs, à l'image des cabinets de professionnels, comme les experts comptables.
Moi, j'ai essayé de maquer un expert comptable, c'est dur. Hein. J'avais quatre experts comptables qui travaillaient pour moi. Il y en avait un, il avait des barésies, tu peux pas savoir. Il était formidable. Le deuxième, je l'avais mis en mini-jupe. Il faisait le boulevard Haussmann avec les dossiers sous le bras. Il était bien. Vous savez ce que disait Arletty ? Dieu sait qu'on connaît tous les mots d'Arletty. J'ai appris celui-là avant-hier.
Allez-y.
Au moment de la fermeture des maisons closes, elle a dit « La fermeture des maisons closes, non seulement c'est une imbécilité, mais en plus c'est un pléonasme.
» C'est joli.
Et voilà. Et bien maintenant, cher public aimé, je vous laisse avec Gérard Miller.
Même pas, parce que c'est l'heure des titres de 17h.
Laurent Ruquier sur Europe 1.
On va se gêner.
C'est la deuxième heure de l'émission, toujours avec Christine Bravo. Michel Bernier, qui triomphe actuellement au théâtre de la Renaissance. Gérard Miller est là aussi. Son ami Pierre Bénichou. Et notre pic de la Mirandole à nous, Titoff. Sans oublier, pour le deuxième challenge du jour, on a eu des perdants là en première heure. J'espère que là, on aura un gagnant ou une gagnante. Corinne, Patrice, bonjour.
Bonjour.
Oh, ça sonne de chez Corinne ou chez Patrice ? Je sais pas chez qui.
Oui,
ça
c'est chez moi.
Ah, c'est chez vous, Patrice, à Nantes alors. Pourquoi ça sonne comme ça ? Vous êtes dans un magasin ?
Non, du tout, je suis chez moi.
Vous êtes chez vous, mais vous êtes très demandé.
Voilà, tout à fait.
Mais pourquoi vous faites quoi dans la vie ?
Rien du tout, justement, je suis chômeur.
Ah, vous êtes poleur. On dit poleur dans notre émission, attention. Il n'y a pas de chômeur qui nous écoute, il n'y a que des poleurs. Et vous êtes poleur dans quel domaine ?
Écoutez, je suis normalement animateur radio.
Ah !
Ah oui ?
Ah oui, ça c'est sûr que... Tant que les vieux vont rester, hein.
Mais oui.
Eh oui, on veut pas laisser la place aux jeunes. J'arrête pas de leur dire à RTL.
Vous avez déjà travaillé dans quelle radio ?
C'est dans, beaucoup dans des radios associatives, pas des radios commerciales, malheureusement.
Bah, en tout cas, là, vous pouvez faire preuve de votre talent sur notre antenne cet après-midi. Peut-être qu'il y a une radio autour de Nantes qui va vous embaucher, allez savoir.
Ah bah, j'espère.
C'était quoi votre style d'animateur ?
Bah, moi, je suis plutôt dans l'animation humoristique.
Ah oui ?
Oh.
Ah bon ?
Bah, alors... Il n'y a pas d'avenir là-dedans, je peux vous le dire.
Alors, vas-y. Vas-y, fais-nous rire.
Mais quelle horreur. Quelle horreur.
Quoi ?
Le truc facile.
Bah, peut-être vous aurez l'occasion de montrer votre talent quand j'aurai posé la question. Corinne, elle est à Londres. Bonjour, Corinne.
Oui, bonjour.
How do you do, Corinne ?
Oh, oui, how do you do? I'm fine, thank you, and you.
Ah, me too, I am fine. I am very fine. I am so fine when I
hear you. Right? When I hear you.
When I hear you.
Thank you very much.
De rien.
Darling.
Qu'est-ce que vous faites à Londres, Corinne?
On va dire que j'aide les Anglais à nous envahir un petit peu.
C'est-à-dire, vous êtes dans le tourisme?
Non,
l'immobilier,
pas du tout.
L'immobilier.
Non, pas du tout. En fait, je suis notaire et je les assiste dans toutes leurs opérations sur le sol français, quand ils acquièrent un bien, qu'ils font un testament.
Oui. Pourquoi vous dites non, j'ai l'immobilier? Vous dites non.
Oui, mais...
Oh, c'est pas possible.
Pas seulement.
Elle comprend
seulement.
Plus bien le français, c'est pour ça.
Vous vivez où à Londres?
Pardon?
Vous vivez où à Londres?
J'habite du côté de Wimbledon.
Wimbledon.
Oh, oh, so nice.
Ah, vous avez alors une belle pelouse?
Oh non, écoute.
En quoi, quoi?
Oh non.
Je ne fais pas de commentaire.
Non, mais je fais comme Pierre, moi je ris derrière. Après. J'apprends beaucoup, moi, à ses côtés.
Corinne, Patrice, je vais vous emmener, avant peut-être de vous envoyer au Mercure Thalassa Port-Fréjus pour une semaine en Thalasso, je vais vous emmener sur les routes de Meurthe-et-Moselle, puisqu'actuellement, en Meurthe-et-Moselle, on peut voir sur le bord des routes des panneaux en quelque sorte publicitaires, où on lit qu'en 2010, quelqu'un... Crise. Qui crise en 2010 si on en croit ce qui est écrit sur ces panneaux?
Allez, vas-y, fais-nous rire.
Qui crise en 2010 si on en croit ces panneaux qu'on peut voir sur le bord des routes en Meurthe-et-Moselle?
Et ça a à voir avec les départements?
Pas spécialement.
Pas spécialement.
C'est une personne connue?
Oui.
C'est censé vendre?
En 2010, crise.
Jésus.
Jésus, bravo Patrice.
Et vois ce que c'est qu'un vrai grand humoriste.
Et ça, c'est un jeu de mots, Jésus-Christ.
Ah bah oui,
vous voyez, c'est le truc, vous voyez. Ouais. Ils sont malins. Et c'est le diocèse de Nancy qui a lancé cette campagne de communication un peu punchy, disent-ils, avec un slogan un peu provocateur. Jésus-Christ, donnez que diable. C'est le...
Oh là.
Ah
ouais.
Donc, si les curés commencent comme ça, ils vont finir par fourrer nos gosses. Hein. Non, ils iront pas jusque-là. Hein.
Oh non, mais c'est vrai qu'elle est un peu bizarre cette campagne.
Bah oui,
quand même.
Ils ont rajouté quoi derrière? Jésus-Christ.
Parce qu'ils ont besoin d'argent.
Pour un clou.
C'est pour enrayer la chute de dons que le diocèse de Nancy, donc en Meurthe-et-Moselle, a décidé cette année de lancer cette campagne un peu provocatrice avec ce slogan en 2010, Jésus-Christ. Donnez que diable.
C'est honteux, quoi.
Comment ça, c'est honteux?
D'abord, parce que le jeu de mots est ridicule, et que quand on est en ecclésiastique, on rit pas avec notre Seigneur. Et qu'on dit pas que diable pour faire malin, les enfants du bon Dieu disent que diable.
L'humour n'est pas interdit dans la Bible.
C'est une personne qui voulait faire du one-man show. Et puis qui a pas réussi, qui du coup a fait curer.
Ouais, Patrice, ce qu'il vous reste à faire,
Oui.
Très bien. Le rire. C'est à ça qu'on reconnaît un animateur, c'est au rire spontané.
Spontané, ridicule, vous en savez quelque chose, Laurent. Hein.
Ben là, Patrice, en tout
vous
cas.
Vous allez faire Radio Thalasso?
Eh oui, Patrice, vous allez partir pour Port-Fréjus.
Super.
Eh oui, c'est le leader en thalassothérapie, Thalassa Si. Et Spa, qui vous invite à découvrir son savoir-faire dans un de ses centres. Détendez-vous, ressourcez-vous, Patrice. Capitalisez durablement sur votre santé en faisant le plein d'énergie. Vous pourrez bénéficier de cette semaine remise en forme qui vous relaxera, qui vous tonifiera grâce aux 24 soins dont vous bénéficierez. Douche sous-marine.
Ah oui. Vous voyez, on peut être animateur et bafouillé.
De la douche sous-marine.
Bain hydromassant. Séance d'hydro... Jet.
Hydrojet.
J'ai même pas lire.
Hydrojet, c'est autre chose.
J'en peux plus lire ce truc. Douche à infusion. Ouais. Enveloppement d'algues.
Mais c'est bien tout ça.
Il veut pas d'enveloppement d'algues. Il veut un boulot.
Modelage détente. C'est-à-dire que vous pouvez y aller avec un ami.
Je crois que c'est modelage des tempes.
Avec Thalassa, si et spa, Pierre.
Oui. Votre corps.
Il y a des voyages.
Que votre qu'on corps n'oublie pas.
Que votre corps n'oublie pas. Et ça, c'est le diocèse de Repin qui vous l'offre. Bravo, Patrice. Bye bye, Corinne.
Au revoir.
See you again.
Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Qu'est-ce qui commence par une tête de zèbre passant par une fenêtre ? Qu'est-ce qui commence par une tête de zèbre passant par une fenêtre ?
Une exposition ?
Une exposition, bravo Michel.
C'est l'exposition qui vient de commencer à Paris. Donc
sur
dans les
expositions.
Non, qu'est-ce qu'il y a mince, qu'est-ce qu'il y a comme exposition ?
Bah ouais, pourquoi tu. Là,
vous devriez avoir honte, Gérard Miller.
C'est l'exposition. Lucien Freud, évidemment.
Ah ben oui, heureusement que j'ai dit que vous devriez avoir honte.
Non, mais je cherchais les expositions que je
le
voulais voir.
Le petit fris.
C'est le dentifrice de Sigmund Freud.
J'arrive plus à parler. Le petit-fils de Sigmund.
De Sigmund lui-même.
Et voilà,
exact.
Lucien Freud, qui est toujours vivant, lui, hein, Lucien Freud.
Voilà, plus de 80 ans, et c'est au Centre Pompidou.
Il y a une exposition actuellement au Centre Pompidou, et cette expo commence par une première toile qui s'appelle Chambre du peintre, une toile qui date de 1944. On voit une tête de zèbre qui passe par une fenêtre au-dessus d'un divan. J'avais pas donné cette précision parce que cela aurait été trop facile pour Gérard, mais de toute façon, Gérard, là, franchement, on a eu.
Je l'ai trouvé.
Il a fallu que je dise que vous ayez honte pour.
Mais chaque fois que vous voulez que je trouve quelque chose, vous dites vous avez honte de. Donc, à ce moment-là, je trouve. Forcément.
Alors, il s'est beaucoup peint sexe à l'air.
C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est vraiment le peintre de la chair,
voilà.
Et de la chair nue. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il a fait le portrait de la reine d'Angleterre, et il a fait un tout petit portrait de la reine d'Angleterre. Alors on demande pourquoi est-ce que vous avez fait un si petit portrait.
Il explique
qu'il a besoin que ses modèles restent jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas de tous les peintres, et comme la reine d'Angleterre avait un emploi du temps chargé, elle n'est restée que relativement peu de temps.
Il a fait quand elle est partie de loin, quoi.
Non. Et donc, mais c'est quand même formidable que ce peintre ait peint la reine d'Angleterre. Ça montre quand même que l'Angleterre est plutôt en avance, parce que c'est des toiles très cruelles pour les modèles.
Il se faisait payer tout de suite, hein.
Ah oui?
Ah oui, parce qu'il disait tout travail mérite sexe salaire. Il dit.
Non, franchement,
Pierre. Vous savez que c'est le peintre vivant le plus cher du monde.
Puisqu'on est dans la culture et dans l'art, je voudrais vous parler de Botero, Fernando Botero. Vous connaissez cet artiste toujours vivant, lui aussi. Ouais. Et à mon avis, ses toiles sont très chères aussi.
Également.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est très très cher.
Ah ouais, alors là, on vient de retrouver quatre statuettes de l'artiste Fernando Botero, mais elles avaient une particularité bien précise.
Elles n'étaient pas grosses.
Oui, elles étaient maigres.
C'est tout ce que j'allais dire.
Moi aussi, je pensais ça.
Non, ça n'a rien à voir avec ça.
C'est une particularité physique.
Non. C'était des contrefaçons, attention.
Ah, ça, des contrefaçons. Faut préciser que c'est des contrefaçons.
Quoi ?
Il faut nous le préciser.
C'est ce que je fais.
Oui,
dis donc, tu crois que tu parles à qui, là ? Faut nous le préciser. Non, mais sérieusement, c'est ton employé ou c'est ton patron ?
C'est mon patron.
Ça veut dire, non, excusez-moi, je veux pas avoir l'air servi, là, monsieur, mais
non, monsieur,
mais quand même, quand je vois ce petit mec qui vous parle comme ça, je sais pas, je suis à la limite de l'étrangler.
Et puis, mets tes mains sur la table aussi.
Alors, ça fait
vraiment quelqu'un qui veut cacher quelque chose, quelqu'un qui met ses mains sous la table comme ça.
En argile, il y avait une statuette qui représentait une religieuse grassouillette, une autre une femme nue, mais ce n'était pas la particularité de ces contrefaçons qu'on vient de retrouver.
Et c'est quoi la question ?
La question, c'est quelle est leur particularité ?
Il y avait quelque chose à l'intérieur.
Non, oui.
De la drogue.
Voilà, car il faut se rappeler que Botero est colombien, évidemment. Et c'est 16 kilos de cocaïne qui étaient cachés dans ces statuettes de Botero. Bonne réponse du pic de la Mirandole. Notre ami Titoff.
Je ne suis pas le pic de la Mirandole.
Voilà, la police colombienne a saisi 16 kilos de cocaïne cachée dans 4 répliques de statuettes de l'artiste colombien Fernando Botero. Ouais, on peut mettre de la cocaïne partout, vous vous rendez compte un peu. Hein. C'est à l'aéroport de Bogota qu'ont été saisies ces 4 statuettes qui partaient pour Madrid avant que les douaniers, évidemment, flairent le Botero.
Ils sont forts, ces douaniers.
Ah, les douaniers colombiens ?
Oh là là,
ils sont formidables.
Ils sont super balèzes.
Mais là, s'ils ont attrapé 15 kilos, ça veut dire qu'il y a une tonne qui est passée de l'autre côté. Quoi.
Non, mais ils sont férus d'art quand même pour savoir que c'était des Botero, que c'était des contrefaçons. Tu vois, c'est fort.
Bah, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire ça dans Botero, c'est donc des statuettes un peu hanches. Bah,
dans un Giacometti,
ça marche pas.
Moins.
Ou dans les mobiles de Calder, tu vois, par exemple, ça marchera pas.
Bon, t'as juste un petit shit, quoi, c'est tout.
Et encore.
Dans un Giacometti, tu peux mettre un joint.
C'est ce qu'elle vient de dire. Exactement.
Oui. C'est bien de faire la même vague.
Il est arrivé, mais un pétard.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurent, salut mes collègues.
L'amour, salut, l'amour, toujours l'amour Serge.
Et alors il y a des tas de citations sur l'amour, je me suis aperçu qu'il y en avait des... Et elles sont toutes bâties de la même manière, vous voyez, l'amour c'est comme le potage par exemple, les premières cuillerées sont trop chaudes, les dernières sont trop froides.
Ça, l'amour c'est comme une cigarette.
Eh bien voilà, c'est ça, vous m'avez mis sur la voie, je cherchais dans les chansons ce qu'il pouvait y avoir qui était bâti de la même manière, l'amour c'est comme, j'ai trouvé 11 aphorismes dans ce genre... Et c'est ce que je vous propose sous forme de quiz.
Alors, il faut retrouver les chanteurs, évidemment.
Il faut retrouver, évidemment, les interprètes.
Le nom des interprètes qui tous ont chanté « L'amour, c'est comme... » Comme quoi, on va entendre.
L'amour, c'est comme la mer, ça monte et repart en arrière. L'amour, c'est comme les bateaux. Vu d'un peu loin, c'est toujours beau. Il nous faut un automne pour le regretter.
L'amour, c'est comme l'enfer. Je dis que sa force est dans sa vie.
L'amour, c'est comme un flocon de neige en flamme. Dès que ça chauffe, tout a fondu en larmes.
L'amour, c'est comme Jésus. Comme le bon vin, les frites saucisses, y'a rien au-dessus.
L'amour, c'est
comment veux-tu tourner la page?
L'amour, c'est comme on joue. Ça s'en va, ça s'en va.
C'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça s'en va.
Il est drôle le dernier. Bon, oui, c'est le plus difficile à trouver pour mes camarades autour de cette table. Moi, je le connais bien, mais je suis pas sûr que ce soit le cas des 5 chroniqueurs ici présents aujourd'hui et néanmoins amis.
Alors, Sylvie Vartan.
Ouais. Bravo, bravo.
Régine.
Non, il n'y a pas Régine.
Morane.
Non plus.
Florent Pagny.
Véronique Sanson.
Alors, Florent Pagny, oui, ça en fait un. Sylvie Vartan, oui, évidemment.
Oxmo Puccino.
Véronique Sanson.
Véronique Sanson.
Rock voisine. Pierre Perret.
Oxmo
Puccino.
Rock voisine.
Bravo Oxmo Puccino, bravo Rock voisine.
Pierre Bachelet.
Pierre Perret, oui. Pierre Bachelet, oui.
Lenny Escudero.
Lenny Escudero, non.
Frédéric François.
Frédéric François, bravo.
Stone,
non. Non, non, Stone.
Des noms,
Stone, vous êtes resté sur les pétards de tout à l'heure, vous alors.
Est-ce que c'est pas Miossec le dernier, non?
C'est pas Miossec.
Hervé Christiani.
Non, vous m'avez dit qu'il y avait Sylvie Vartan, à votre avis.
Mais elle est deux fois.
Ah, il y avait un piège.
Eh oui, il y a deux fois, Sylvie. Il vous en manque deux. Voilà, mais deux. Ouais. Les deux plus difficiles, hein.
L'amour, c'est comme la mer, ça monte et repart.
Alors, ça, c'était bien Florent Pagny.
L'amour.
Après, on commentera peut-être les phrases, parce que c'est intéressant. Là, c'est Vartan. Tu sais pas ce qu'elle veut. Hein. Une fois, c'est comme les bateaux. Une autre fois, c'est comme les cigarettes.
Putain, de loin, c'est toujours beau. L'amour, c'est comme l'été.
été.
C'est le commentateur des JO de France 2, Rock Voisine.
L'amour, c'est comme en fait.
Véronique Sanson.
L'amour, c'est comme un flot.
Heureusement que Titoff était là pour reconnaître Oxmo Puccino.
L'amour, c'est comme Jésus.
Pierre Perret, évidemment.
Comme le bon vin, les frites saucisses, y a rien au-dessus.
Reviens Vartan.
Ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça s'envole en fumée.
Pierre Bachelet, vous l'avez trouvé.
Comment veux-tu tourner la page?
C'est le suivant que vous n'aviez pas.
Quand vous jouez.
C'est une chanson d'Aznavour.
C'est brésilien, c'est.
Et c'est Sting qui chante.
Ah, c'est beau, c'est beau.
Ça s'en va.
Michel a retrouvé son idole, Frédéric, oui. Frédéric François.
Mon petit Fredo.
Sensuel et chargesse,
l'amour c'est comme.
Et le dernier, c'est un copain de Zazie, la chanteuse Zazie, c'est Vincent Baguian.
Ça se chante, ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire.
Oui, mais il écrit bien.
Non, c'est pas qu'il chante faux, il chante pas tout à fait la mélodie, c'est ça.
Ouais. On se retrouve demain, Serge, d'accord?
À demain, salut à tous.
Quand même. J'aimerais que vous commentiez ces paroles-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec Florent Pagny, par exemple? Est-ce que vraiment, l'amour, c'est comme la mer, ça monte et ça repart en arrière, Christine?
Écoutez, moi, je suis à marée basse, là. Je vais essayer d'avoir un orgasme avec la Méditerranée.
Non, non, non.
Gérard.
Il n'y a même plus de coquillage, là, je crois.
Gérard, est-ce que vous pouvez me commenter la chanson de Sylvie Vartan? L'amour, c'est comme les bateaux, vu d'un peu loin, c'est toujours beau.
Oui, c'est une remarque un peu pessimiste d'une femme qui a beaucoup souffert.
Oui, on peut dire de temps en temps, on peut descendre à la cale.
Moi, je trouve que de près aussi, c'est très beau, la mer.
Pierre, pouvez-vous me commenter ces deux vers de Rock Voisine? L'amour, c'est comme l'été. Il nous faut un automne pour le regretter.
Ah, c'est assez joli, c'est assez profond même.
Oui.
Ça se rapproche de la fameuse phrase de, je crois que c'est de Prévert, c'est... J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait quand il est parti.
Ah, c'est pas mal. Ouais. Belle analyse. 20, Pierre.
Merci beaucoup. Ouais.
Michel Bernier.
C'est noté maintenant.
Est-ce que, comme Véronique Sanson, vous pensez que l'amour, c'est comme l'enfer? Je dis que sa force est dans sa lie.
Oh, la lie. Bah, si c'est Véronique Sanson, il y a un côté.
Ah, il sait de quoi il cause.
Ah, tiens, ah ouais. Il y a que de l'eau, de pluie, de l'eau, de là-haut.
Titoff, vous pouvez me commenter la phrase d'Oxmo Puccino. L'amour, c'est comme un flocon de neige en flamme. Dès que ça chauffe, tout a fondu en larmes.
Ouais, c'est très joli, c'est une belle métaphore, c'est assez imagé. Moi, je referai une citation aussi comme Pierre Bénichoux. Je citerai François Valéry qui a dit « Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent.
Ouais. »
Aimons-nous vivants.
Ça fait un peu omelette norvégienne, non?
Christine, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez comme Pierre Perret que l'amour,
oui,
c'est comme Jésus,
oui,
comme le bon vin,
oui,
les frites,
oui,
saucisses?
Oui, c'est surtout ça.
Il n'y a rien au-dessus.
Ouais, c'est ça.
C'est pas vrai, parce qu'au-dessus des frites saucisses, il y a de la moutarde, parfois. Hein? Gérard, pensez-vous que l'amour, c'est comme une cigarette? Ça pique les yeux, ça fait pleurer.
Et ça part en fumée. Eh bien, je ne le pense pas du tout,
ah bon,
justement.
Non, l'amour, ça dure.
Je pense que l'amour, ça dure,
ouais,
qu'il faut croire à l'amour.
Ah bah
l'amour,
c'est sûr que...
Il faut aller jusqu'au filtre.
Toi, c'est sûr que... C'est sûr que toi, tu t'aimeras toute ta vie. Hein. Ouais.
Non, non, mais je pense vraiment ça. Je pense que...
Et je pense que Pierre saura commenter la chanson de Pierre Bachelet. L'amour, c'est comme un tatouage. Comment veux-tu tourner la page?
Ah ben, d'accord. Ah ben, moi, tu sais, c'est plutôt le coron, mon truc, moi. Hein. Ouais. Je veux dire, une fois que t'es tatoué à l'amour, eh ben, c'est indélébile.
Mais c'est surtout que c'est vrai qu'un tatouage...
C'est vrai, mais c'est con, cette
on
phrase.
Peut pas tourner la page d'un tatouage, non, sauf si la femme ou le monsieur a des plis. Si.
Non, mais je veux dire, il y a quand même des rimes. Je sais bien que tout ce monde-là marche au dictionnaire de rimes. Mais il y a quand même d'autres rimes avec tatouage que tourner la page. C'est ridicule.
Michel.
Et
ça, c'est du Aznavour. L'amour, c'est comme un jour. L'amour, oui, c'est comme un jour. Ça s'en va. Ça s'en va, l'amour.
Ah oui, c'est beau. Hein, j'adore. Ah, oui. J'adore. L'amour, jour, c'est comme un jour, on a l'impression. Jour, ça a été un beau moment, puis la nuit arrive et...
Ah oui, c'est ça.
Il y a dans cette chanson une phrase ridicule. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en vient, ça s'en va, l'amour. L'amour, c'est comme un jour... De soleil en ripaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais je trouve, de soleil en ripaille. Mais qu'ils aillent apprendre à écrire, ces cons-là, non, sérieusement.
Merci pour monsieur Aznavour.
Oui.
Est-ce que vous pensez?
Là, c'est une vraie gaffe que tu viens de faire, Pierre. Tu parlais du respect qu'on doit à notre patron. Il a écrit une superbe comédie.
Oui, c'est pas moi
musicale.
Qui ai écrit les chansons en même temps, hein,
non,
donc.
Mais vous avez écrit quand même le texte, vous êtes intéressé à Aznavour, et là, tu viens à la fois de blesser des millions d'auditeurs qui aiment Aznavour et notre cher patron.
Allez, vas-y, Titoff, avec Frédéric
non,
François.
Mais
vas-y,
notre cher patron. Ouais.
Laissez-moi, parce que là, vas-y, on parle de poésie.
Donc là, il faut quand même, voilà, commenter du Frédéric François. L'amour, oui, c'est comme le tango.
Ouais.
Sensuel. Et charnel.
Oui, c'est enflammé, c'est ah, à la oui, fois, ça passe par le corps, l'amour, ça ouais, passe ouais, par le corps.
Mais le ouais, mieux, c'est quand même encore la chanson de Claude François reprise par Vincent Baguian, parce que là, vraiment, je cherche à comprendre. L'amour, ça vous glisse entre les mains.
Ah bah oui.
Eh oui, ça c'est vrai.
T'as jamais... Il y a des fois où tu peux pas te retenir.
Tu peux... C'est quand même bizarre, ça.
Non, hein, pas du tout. Il y a des fois où ça glisse entre les mains.
Ça glisse entre les mains, franchement.
Mais est-ce qu'il faut le remettre
confirme
dans son
texte? Non, mais ce qui est honteux, c'est la phrase d'avant. C'est là, l'amour, c'est comme le tango, sensuel et charnel. L'amour peut très bien être ni sensuel ni charnel. L'amour que nous portons à Dieu, l'amour que nous portons aux enfants, c'est ni sensuel ni charnel. Oui, on veut faire de l'amour seulement l'apanage de la sexualité. Bien, n'est-ce pas, mon cher Sigmund?
Mais bien entendu. Et tu as tout à fait raison.
Et en voiture, Sigmund. Dans un instant, le DVD de la semaine, ce sera après la pub.
Europe 1, on va se gêner.
Le DVD de la semaine.
Et alors là, ce n'est pas n'importe quel DVD que j'ai remis à Gérard Miller, à Titoff et à Christine Bravo, puisqu'il s'agit du DVD de la Palme d'Or à Cannes, Le Ruban Blanc, un film de Michael Haneke. Moi, je vais vous dire, ça m'intéresse d'avoir votre avis, parce que je vais vraiment attendre de savoir si ça vaut le coup de le regarder. Parce que moi, comme ça, a priori, je vais vous dire, hein, je ne l'achèterai pas, je ne le louerai pas, ce DVD. Je me souviens avoir passé la bande-annonce dans l'émission, je me souviens m'être fait engueuler parce que j'avais des idées préconçues sur ce... Alors que j'ai vu des films d'Haneke excellents, et je pense par exemple au film avec Annie Girardot et Benoît Magimel, qui était, j'ai plus le titre, mais qui était vraiment très réussi. Il y a des tas de films d'Haneke, mais alors celui-là en noir et blanc où on voyait un village, c'était statique, et je me suis dit, mais ça pour moi non, c'est trop. Ai-je eu tort? Ai-je eu une idée préconçue? Et peut-être je dois me précipiter chez mon loueur de vidéocassette ou DVD pour aller...
Cassette, je suis pas sûr que tu trouves. Hein.
Mais il y a encore des cassettes.
Oui, oui, mais bon, après, ouais, de là, trouver des films, tu vois.
Le Ruban Blanc.
Alors, le Pic de la Mirandole.
Le Ruban Blanc, Christine, alors.
Alors, écoute...
Palme d'Or.
Alors, écoute, je suis très, très... Alors, je vais t'expliquer.
Oui.
Tu sais, c'est comme quand tu vas dans un musée, oui, où tu vas voir une œuvre d'art, oui, absolue. Ouais. Tu sais que c'est une œuvre d'art, on t'en a parlé, tu y vas, et toi, tu l'aimes pas forcément. Mais c'est une œuvre d'art.
Ah.
Et je me suis retrouvée dans cette situation, c'est-à-dire que j'avais pas du tout envie de le voir, j'avais pas du tout envie. Et puis alors dis donc, en allemand, je peux même pas l'épicer, tu vois, parce que tu si tu lis pas les sous-titres, alors là, tu comprends rien, tu vois. Donc t'es là 2h30, tu peux pas bouger parce que moi je sais pas bloquer la télécommande. Donc non, je sais pas.
Excuse-moi, c'est pas la télécommande qu'il faut bloquer, c'est l'image.
Oui,
hein,
l'image. Et donc.
Et quand t'es au cinéma, tu restes bien assis.
Oui, oui, non, mais oui, mais je suis d'être pas, je serais pas allé le voir au cinéma.
Oui, mais chez elle, voilà, les chiottes sont gratuites.
Et donc, alors écoute, je vais t'expliquer. Il y a une luminosité, c'est formidable que ce soit en noir et blanc d'abord, parce que il y a la noirceur de ces personnages, mais c'est horrible. Il n'y en a pas un que tu aimes, il n'y en a pas un qui est sympathique. C'est affreux, affreux.
C'est un village protestant, oh là 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 là, de l'Allemagne du, oh là là, Nord, alors c'est à la veille de la Première Guerre mondiale.
Voilà. Et c'est la rigidité, psychorigidité de l'éducation, avec ce pasteur insupportable, le médecin pédophile, enfin, ils sont tous dégueulasses. Et
il y a une chorale d'enfants, en plus c'est d'actualité, hein, avec ce qui se passe
ça,
en ce moment.
La luminosité du film, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire, c'est... quand il neige, c'est blanc comme ça.
Ah oui, chez nous aussi.
Oui. Mais je n'ai pas fini. En été, tu devines la blondeur des blés. C'est incroyable la couleur que tu vois dans ce noir
et blanc. Quelle couleur, couleur dans ce noir et blanc extraordinaire.
T'as toutes les saisons, quoi.
Et je termine. Écoute, je suis resté jusqu'à la fin. Je n'ai pas
pas bougé. Je voulais connaître la fin.
Je sais pas ce que disent les voisins.
Il y en a pas.
J'attends encore la fin. Je pense, il y a pas de fin. Je pense que c'est un film qui va m'habiter très longtemps. C'est-à-dire que je vais y repenser très très souvent. Donc je pense que oui, c'est un chef-d'œuvre.
Alors Gérard,
évidemment qu'il y a une fin à ce film. La fin, c'est 1933.
Oui, bah voilà.
C'est-à-dire le nazisme.
Ce qui oui, est, ce on qui sait, est, on a compris.
Dans cette émission, on passe très vite pour un intello. Donc je vais passer pour un intello.
Non,
je trouve
non,
ce
pas
film
toi, pas toi.
Formidable. Aucun risque.
Je trouve ce film.
Alors tu peux te détendre. Détends-toi le bulbe.
Alors si c'est ton angoisse, Gérard, t'es tranquille.
Je trouve ce film.
Dès que tu prends la parole, on dit rions un peu.
Je trouve ce film parce que ce qu'il faut expliquer d'abord. Ce qu'il faut expliquer d'abord aux auditeurs, c'est qu'il s'agit en effet d'une question qu'on s'est peut-être posée, mais d'où sortent les nazis, sinon de l'enfance?
Oui.
Donc il s'agit effectivement de penser une seconde que ces monstres qu'ont été les nazis ont été des enfants,
oui,
qu'ils ont
oui.
eu 10 ans, 12 ans, 8 ans. Oui. Et ce film nous place à ce moment-là, sans le dire d'ailleurs. Oui. Nous sommes dans un village qui éduque ses enfants de façon monstrueuse. Ces enfants, à un moment donné, se conduisent sans doute eux-mêmes comme de...
Mais sans doute.
Sans doute.
On sait pas.
Mais oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une thèse absolument affirmée. C'est un très beau film du point de vue esthétique, il est formidable. Moi, je me suis pas ennuyé une seconde.
Moi non plus.
Franchement,
quoi
pas
non,
une seconde.
Moi non plus.
On suit en effet comment
non
ces enfants maltraités par leurs parents, ces enfants battus, ces enfants à l'occasion violés, comment ces enfants vont progressivement se constituer en petits groupes. Il y a une petite bande d'enfants qui maltraitent un handicapé, qui effectivement maltraitent les parents.
C'est le nazisme.
C'est le nazisme. Et donc, si vous voulez comprendre un tout petit peu ce que c'était, si j'ose dire que le nazisme en herbe, comment on fabrique effectivement des monstres. Franchement, c'est un très beau film. Qui met mal à l'aise, mais qui ne soutient pas des thèses trop affirmées. C'est pour ça qu'on reste.
C'est pas chiant.
Non.
Écoutez, je vous assure,
je vais l'acheter même.
Je ne me suis pas ennuyé.
Ça n'est pas chiant.
Alors, Titoff.
Et c'est vrai que j'ai adoré vraiment. C'est beau.
C'est vrai.
Oui, c'est beau parce que c'est du grand cinéma. Moi, j'ai un de mes plans préférés, c'est quand à un moment donné, on comprend que des enfants vont se faire battre à coups de verge, hein, l'instrument. Hein. Et là, il y a un plan statique comme ça, pendant à peu près un quart d'heure, sur la porte. Après, j'ai bien aimé aussi le plan où il y a un enterrement et ils viennent chercher le cercueil. Où là, on peut vraiment avoir l'émotion de l'enterrement puisque le plan fixe dure à peu près trois quarts d'heure.
Non, c'est vrai.
Et là, et moi aussi, j'étais là comme c'était un allemand. Je pouvais pas les pisser, quoi. Tu vois, non. Comment dire?
Mais
c'est très beau. Non, c'est très beau parce que c'est comme, c'est vrai que c'est la vie d'une, c'est un film sur la vie. Et comme, comment dire, si je peux te faire une image, c'est un peu comme c'est en noir et blanc aussi. C'est comme un très bon film de Marcel Pagnol, mais où tu te fais chier, quoi. En gros. Et comme justement, juste avant, j'avais vu l'émission sur France 2 sur l'insoumission, sur la désobéissance, et que j'ai vu ce film avec ma femme, et j'ai souvent beaucoup de famille, de la famille des amis à la maison. Et donc, à un moment donné, justement, je me suis rappelé de l'émission, et au bout d'un moment, j'ai arrêté la torture pour ma famille. C'est-à-dire de leur imposer de voir ce film. C'est du grand cinéma, mais il faut avouer, moi je trouve qu'il y a un petit peu de branlette aussi, ou même ne serait-ce que la fin.
Pas grave, ça.
Moi je trouve qu'il y a un peu de branlette.
Si c'est fait avec plaisir, c'est pas grave.
Mais par exemple, quand il y a du cinéma sans concession, comme Jacques Audiard, ou le film qu'on a vu d'ailleurs, il y a pas si longtemps, Un prophète, ça n'a rien à voir, mais moi je trouve quand même que, je veux bien que pour parler de ce genre de sujet, il y a une subtilité, c'est comme dans l'art, moi je suis ouvert, j'ai jamais eu d'idée arrêtée, j'ai vu des films d'auteur vraiment sans concession avec grand plaisir, mais là vraiment c'est vrai que
alors là d'un seul coup
je l'ai vu en entier, j'ai fait ma plaisanterie sur le fait d'arrêter la torture, mais je l'ai vu en entier. On est obligé d'avouer que oui,
pourquoi t'as eu envie d'aller jusqu'au bout, c'est ça qui est extraordinaire, pourquoi tu es allé jusqu'au bout
alors que d'habitude vous les regardez même pas au début.
Je regarde toujours.
Pourquoi tu es allé jusqu'au bout?
Parce que
t'avais envie,
parce qu'il y avait quelque chose.
Non,
mais si t'étais pris, t'étais dedans,
il y a quelque chose.
Ça se tente.
Moi, si on me l'avait donné, je l'aurais pas regardé parce que c'est un film que Isabelle Huppert a défendu bec et ongles.
Voilà. Parce que Isabelle Huppert, il faut le dire, était justement, je l'ai pas cité tout à l'heure, l'héroïne du film La Pianiste aux côtés de Benoît Magimel et Annie Girardot. C'est ce film-là dont je parlais d'Anneke qui, alors pour le coup, est plus accessible. Celui-ci,
il est accessible. Mais c'est ça qui est incroyable.
Il faut aimer l'histoire, il faut aimer les acteurs. Le petit personnage des enfants, mais le casting est formidable.
Je vais le regarder. Je vous promets, je le regarde.
Regarde-le avec un bon esprit, regarde-le pas en pensant que tu vas voir effectivement
une aventure. Est-ce que j'ai un mauvais esprit parfois?
Mais c'est, non, mais c'est important, le cinéma, il faut un tout petit peu savoir ce qu'on va voir. C'est-à-dire qu'effectivement, si on pense qu'on va passer un bon moment de déconnade et de rigolade, ça c'est sûr qu'il faut pas regarder.
Je regarderai Les Charlots en Espagne la veille.
Ça va. Hein, non, mais on sait aussi ce que ça veut dire de voir regarder un film qui t'apprend des choses.
Mais tu vas voir le plan. Le plan sur la porte, là, à un moment donné, il est magnifique.
Il faut le voir pour le croire. J'étais persuadée, j'avais un très mauvais a priori.
Au début, tu savais pas.
Si, j'avais un très mauvais a priori.
Tu as attendu que Gérard donne son avis pour après prendre autant d'engouement.
Je l'ai donné avant, mon avis. C'est une œuvre d'art, je suis pas. Je préfère d'autres films, mais je suis resté accroché jusqu'au bout.
Moi, alors bon, là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait. À un moment donné, c'est vrai qu'on est obligé de reconnaître. Enfin, sinon, ça serait vraiment. Ça serait vraiment n'importe quoi. Ouais. C'est qu'il est quand même la Palme d'Or. Bien évidemment que oui, c'est un genre de cinéma qui est très maîtrisé et qui. Voilà, la preuve, la discussion.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Alors Paul, la première question concernait l'entrée à l'Académie française de Simone Veil. On sait qu'aujourd'hui, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing devaient être présents à cette cérémonie. Mais M. Sarkozy, qui lui aussi devait être là, paraît-il, a renoncé au dernier moment parce que, ça c'est le Figaro qui nous le disait, parce qu'il aurait été contrarié par les dernières remarques de Madame Veil à propos des dernières nominations au Conseil constitutionnel de 3 hommes et qu'il n'y a eu aucune femme au sein de ce Conseil constitutionnel. Ça a froissé Madame Veil. Et alors, le fait qu'elle fasse cette remarque, ça aurait en plus effet boule de neige, froisser le président et il viendrait pas pour ça. Ça me surprend.
Alors Laurent, je suis affirmatif. Je peux vous dire que d'excellents journaux, et notamment le Figaro, peuvent faire des erreurs. Ah. C'est une erreur magistrale. Le président est arrivé autour de 15h, Kekonti. Il a salué son Premier ministre. Il a salué les deux anciens présidents, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Et il a embrassé Simone Veil, la 6e femme à entrer sous la coupole.
Et vous êtes capable de nous dire ça à 11h26 en
plus. Ouais, je vous le dis à 11h26, un communiqué d'Élysée a été envoyé, ils le recevront dans quelques temps.
Et bien moi je dis bravo monsieur Vermus, là, voilà. Alors, là. Ah non, non, ça c'est bien. Il y a intérêt à ce que vous vous plantiez pas, Paul. Hein.
Non, vous pouvez y aller, c'est du sûr. Hein.
Ah, mais d'accord, c'est du sûr, mais est-ce que tu connais ce fameux camion de 15 tonnes qui a écharpé l'auto du président vers 14h30 au coin de l'avenue Marigny?
Alors, le lancement du nouveau magazine Bi, maintenant, je l'ai entre les mains. Alors voilà, c'est nouveau, bi.com, parce qu'en fait, c'est un magazine qu'on peut trouver aussi sur Internet, par application sur iPhone, enfin bon, voilà.
C'est Total Média.
Vanessa Paradis. Les 53 souliers hot, la fiancée de Hollywood qui aime les bad boys, Anne Hathaway, et alors Paris Hilton qui serait la marraine de ce magazine. Alors, pourquoi la marraine?
Alors déjà, vous enlevez le conditionnel, c'est vraiment la marraine, tout simplement parce que c'est un haut de gamme générationnel, cet hebdomadaire qui sera vendu 1€ dès vendredi dans les kiosques, et destiné aux trentenaires, alors entre 20 et 35 ans. Alors Paris Hilton est tout à fait dans la tranche, elle a 33 ans ou 32 ans. Ce journal se veut pétillant, léger, impertinent, chic, audacieux. C'est un peu l'image qu'a Paris Hilton. D'autre part, Paris Hilton est vraiment la marraine, puisqu'on va voir à la télévision dès demain un spot de pub que je viens de voir en exclusivité pour vous, Laurent.
Ah oui.
Et on la voit tenter d'arracher un joli sac à une jeune femme qui pénètre dans l'ascenseur.
Mais ça passe déjà, ça.
Ah ben, il passe déjà, en tous les cas, je l'ai vu. Donc, je ne l'ai pas vu en exclusivité. Merci.
Parce que j'ai déjà vu.
C'est intéressant, d'ailleurs, le reportage sur elle dans le magazine. À un moment donné, il y a marqué « Suspense, Paris Hilton porte-t-elle une culotte ?» Réponse dans quelques instants à sa descente de voiture.
C'est chic.
Alors, le style Paris Hilton, c'est sa façon de s'habiller, sa façon de vivre.
C'est la pétasserie.
Son goût du luxe, ça correspond à l'image de ce magazine.
Eh ben alors, c'est de la pétasserie.
Il faut savoir une chose, Laurent, c'est que Paris Hilton a fait l'année dernière une pub pour un shampoing, et le shampoing a multiplié ses ventes par 5. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Paris Hilton, elle fait vendre. Hein.
La présidente du syndicat hôtelier, et c'est là où on vous attend surtout, cher Paul, est-ce que vous avez réussi à obtenir en ligne, au téléphone, Madame Christine Pujol?
Absolument, Laurent.
Toujours enfermée dans
Je
son bureau.
À l'avoir eu, parce que j'ai appelé le standard du syndicat de l'hôtellerie et ils n'ont pas voulu me la passer.
Évidemment.
Alors finalement, ce que j'ai fait, j'ai appelé mon vieux copain Daguin, qui a été président de syndicat et qui était à l'aéroport et qui m'a donné le téléphone de Christine Pujol que je viens d'avoir en ligne.
Ah, et alors ? Alors, il fait pipi comment ?
Alors, ce qu'il faut savoir, donc, qu'elle soit au troisième étage de la rue d'Anjou, c'est une réalité. Ce que je viens d'apprendre, c'est que sa collaboratrice qui est avec elle vient de recevoir sous la porte sa mise à pied, elle va être licenciée.
Ah oui ?
Vous voyez, elle n'est pas la seule. Jusqu'à l'audience de référé qui sera prononcée pour son exclusion du bureau, ou non. C'est ou demain ou lundi, donc le tribunal se prononce demain.
Mais si vous avez son téléphone, on peut l'appeler, nous aussi.
Alors écoutez, je viens d'avoir notre ami Anthony, je lui ai donné mon...
Alors on l'appelle, pendant que vous nous parlez, on l'appelle, d'accord ?
Ouais, d'accord, ok.
Et alors comment il fait pipi, alors ?
Alors écoutez, les toilettes ont été bloquées, mais elle a immédiatement fait appel à son avocat. Elle a fait appel à son avocat pour qu'on débloque les toilettes, ce qui vient d'être fait. Ah. Alors, bon, je peux vous dire que... elle est d'une certaine manière, elle a maigri. Elle est plutôt assez contente parce que elle avait, me dit-elle, des rondeurs et finalement c'est un régime forcé. Elle attend avec impatience un médiateur.
Oui, bonjour. Je suis désolée, je ne suis pas en ligne en ce moment. Vous pouvez laisser votre message et dès que possible, je vous répondrai. À bientôt. Merci.
Bah alors, Paul.
Bah écoutez-moi, si elle est sur répondeur, moi je peux vous dire que j'ai eu il y a 5 minutes et j'ai prévenu très officiellement que Laurent Ruquier et sa bande allaient l'appeler.
Je laisse un message.
Mais psst, voilà.
La pauvre.
Vous ne direz pas que c'est nous, Paul.
Non, bien sûr que non. Enfin, ce que je peux vous dire, deux choses, c'est que ce qu'elle attend, c'est la réponse du tribunal et l'annonce ou non d'un médiateur qui devrait régler définitivement ce problème.
Bon, on espère.
Ça sera terminé lundi, cette affaire.
Bon, très bien. Allez, on termine par Mike Brandt avec cette comédie musicale qui doit démarrer dans un mois ou dans six mois ?
Le 16 septembre, Laurent.
Ah bah...
Ça démarre le 16 septembre. On est le combien là ?
On n'est pas à un mois de la première, alors.
On est à six mois de la première.
Oh.
Un mois de répétition, peut-être.
Donc à six mois, c'est normal qu'ils n'aient pas encore trouvé leur Mike
Brandt. Alors non, mais ils ont reçu déjà quand même, puisqu'il y a une petite annonce qui a été faite par l'AFP, parce que qu'est-ce qu'ils recherchent ? Un garçon d'1m87 faisant 80 kilos, sachant chanter et jouer la comédie.
Pierre Bénichou.
Bon, alors ils ont reçu des réponses, mais des réponses d'amateurs, et ça devient très 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 difficile de trouver l'homme liche qui pourra incarner Mike Brandt.
L'homme
et
quoi
finalement,
l'homme
la réponse, je l'ai peut-être.
Vous avez dit quoi ?
L'homme liche.
L'homme liche ?
Oui, enfin bon, l'homme idéal qui pourra se mettre dans la peau de Mike Brandt.
Mais non, l'homme liche, c'est pas l'homme idéal. L'homme liche, c'est le suivant. C'est quand on dit un tel, monsieur Sarkozy, son homme lige, c'est monsieur Fillon.
Bon, écoutez, moi je pense que vous pouvez me contrarier tous les jours de la semaine, mais là pendant 24 ou 48 heures, ne me contrariez pas.
Non, d'autant que là vous avez fait du bon boulot déjà.
Attendez, je vais même vous dire qu'il va incarner Mike Brandt normalement, parce que la solution, ils ne la trouvent pas, ils ne vont pas la trouver.
Ah oui, alors qui ?
Normalement, c'est un garçon qui triomphe à Tel Aviv. Il s'appelle Dan Shapira, il triomphe à Tel Aviv dans la comédie musicale Mike Brandt, qui en est déjà à plusieurs centaines de représentations à guichet fermé. Il a 28 ans et il chante en français. C'est une vraie vedette. Le seul problème, c'est probablement son cachet qui risque d'être élevé. Mais il lui ressemble en plus comme deux gouttes d'eau. Moi, je ne peux pas vous donner plus d'informations pour le prix.
Mais alors, s'ils l'ont, pourquoi ils envoient une offre d'emploi ? Ils demandent des candidatures ?
C'est moi qui viens de le dégoter. Je les ai mis en rapport. Attendons maintenant. Vous voyez, j'étais plus loin que ce que je dois faire.
Et vous prenez 10%?
Je ne prends rien, vous le savez bien, Laurent, c'est mon gros défaut.
Mais pourquoi vous-même, vous ne pourriez pas jouer Mike Brandt?
C'est exact. Mais je pense que voilà, vous dites une chose qui me paraît enfin sensée.
Essayez voir, chantez-moi. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris.
Tu m'as tout donné, tu... Je crois qu'il est bon que je m'arrête.
Paul, aujourd'hui, ouais. Vous avez été un seigneur. Bravo. Et dans un instant, à nous, et plutôt à vous, parce que moi je sais qui c'est, de retrouver qui est caché dans la loge d'honneur, après les titres de 18h.
Europe 1, on va se gêner.
Un invité à découvrir, c'est la loge d'honneur.
Bonjour invité d'honneur.
Bonjour invité.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Vous êtes bien installé dans la loge ?
C'est un peu à l'étroit, mais bon.
Un peu à l'étroit. Alors attention, mes camarades vont vous poser des tas de questions. Vous répondront... c'est vous qui répondrez par oui ou par non. Pardon, je bafouille un peu aujourd'hui.
Oui, un peu. Oui.
Ah ben, c'est jeudi. Je suis perturbé. Et en tout cas, mes camarades vont vous poser des questions. N'en dites pas trop, hein. Oui, non, Pas plus, hein. Deux, trois mots, jamais plus. Pas trop d'indications. Moi, je leur donnerai des indices tout au long si je vois qu'ils sèchent lamentablement.
On va pas sécher,
c'est parti.
Je
alors,
sens bien d'abord que vous êtes une femme. Ah, on le sent parce que Laurent est perturbé, ça peut pas être par un homme. Non, non, vous êtes même, je crois que je peux le dire parce que vous ne le direz pas, vous êtes ce qu'on appelle une belle femme.
Ça dépend des goûts.
Et vous êtes chanteuse ?
À mes heures.
Ah, c'est pas votre métier alors.
Vous êtes actrice ?
Aussi.
Aussi.
Voilà, chanteuse, actrice. On vous reconnaît dans la rue ?
Ça dépend des quartiers.
Ah bon ?
Ah bon ? Alors, non, alors est-ce qu'on vous reconnaît plus dans les quartiers populaires ?
Toi. Plus en France qu'à Paris.
Ah,
plus en France qu'à Paris.
Vous êtes plus populaire, c'est-à-dire.
Plus populaire. Donc,
est-ce que vous avez joué dans plusieurs films ?
En France, non.
Ah, voilà, toi, c'est d'excellentes.
Est-ce que vous parlez, vous êtes peut-être, enfin, vous êtes francophone, mais peut-être que vous êtes québécoise ou suisse ou belge. Vous êtes française.
Française.
Est-ce que vous êtes ou avez été avec un compagnon, un mari aussi célèbre que vous ou plus ?
J'ai une aventure avec une grande célébrité américaine.
Ah, voilà. Une aventure.
Ça vous intéresse, hein. Une aventure.
Ouais. Michel, est-ce que vous pouvez donner un coup de coude à Pierre Bénichoux qui est en train de s'endormir?
Pas du tout, je réfléchis, justement.
Pas du tout, il cherche
cette
toutes grande... les belles femmes qu'il connaît.
C'est une grande célébrité américaine qui peut être sans chose. Écoutez, arrêtez quand mes paupières se baissent, ça veut pas dire que je dors.
Non, pas du tout.
Mais il n'y a pas que les paupières qui se baissent.
Quand les paupières se baissent, quand le front s'affaisse, quand les dos s'arrondit, quand la respiration devient plus lente.
Vous étiez en train de mimer le dos d'âne.
Tu ne dors pas.
On va pas dire le nid de poule parce qu'il couvre pas, Pierre.
Mais va te raser quand tu me parles.
Allô, vous êtes toujours là ?
Alors, est-ce que vous êtes blonde ?
Oui.
Blonde naturelle ?
Une femme blonde, oui.
Ah, une fausse blonde, c'est plus dangereux.
Ah. Une fausse blonde.
Est-ce que vous êtes devenu célèbre grâce à la télévision ?
Oui.
Est-ce que certains détracteurs vous ont considéré que, à cause de cette histoire avec ce célèbre américain, vous étiez une femme facile ?
Non.
Non.
Alors je vais vous dire, Gérard, moi, en tout cas, je ne savais pas que notre invité d'honneur avait eu une liaison avec une grande célébrité américaine. Alors, c'est dire que c'est pas forcément.
Mais est-ce que ça se sait d'elle ?
Bah non,
mais non,
Laurent ne le sait pas.
Si je vous dis que je le sais pas, moi.
Et bah alors toi, tu le sais pas, donc les autres savent pas.
Non, enfin, excusez-moi, quand même, j'ai à peu près une connaissance.
Ah oui, il a quand même bourlingué, hein. Oh, c'est pas le mec à s'endormir pendant les émissions, lui, hein. Ah non, non.
Enfin,
il connaît du monde, quand même.
Oh, ouais. Non, vous prenez pour... Je veux dire par là que...
Il tutoyait Topalov, lui.
Je sais quand même à peu près, peut-être même sûrement, plus de choses que vous sur, on va dire, les gens de ce métier. Et voilà.
Est-ce que pour vous, cet invité, c'était quand même une Marie couche-toi là ou pas du tout?
Donc, c'est pas moi d'abord qui réponds aux questions.
Hein. Marie couche-toi là.
En tout cas, je ne savais pas, cher invité d'honneur, que vous aviez eu une liaison avec une célébrité américaine.
Voilà. Une célébrité. Et une célébrité française d'origine algérienne, ça vous dirait rien?
Écoutez,
dites-moi,
attendez, d'autres questions, mais dans un instant, après la pub, avec peut-être un premier indice.
Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur.
Alors, on sait que notre invitée d'honneur a chanté, qu'elle a joué la comédie, que c'est vrai que la télévision a aidé à la faire connaître.
Qu'elle parle anglais.
Qu'elle parle anglais. En tout cas, qu'elle a eu une liaison avec une grande célébrité américaine. Qu'elle est blonde, hein, ça, vous avez trouvé ça aussi. Et puis, voici un premier indice musical.
Elle a fait Koh-Lanta.
Ça, c'est l'ingénierie de Koh-Lanta.
Ça, c'est Koh-Lanta, ça.
Ouais.
Alors, est-ce que ça vous aide, cet indice ?
C'est Koh-Lanta.
Moi, je crois, vous allez me dire si je me trompe, que si on a passé cette chose de Koh-Lanta, c'est que vous avez vécu à la, peut-être dans des conditions sauvages, dans la campagne, dans la nature un peu déchaînée, comme ça.
Avec toi, Jean Ferrin, oui.
Bah, la question la plus simple que vous auriez pu poser, est-ce que vous avez fait Koh-Lanta ?
Non.
Est-ce que vous êtes une aventurière ?
Oui.
Voilà. Ah.
Faites des rallyes ?
Je fais des rallyes.
Est-ce que vous êtes connu pour notamment avoir participé ou organisé un rallye célèbre ?
Alors, attendez, parce que d'abord, il y a peut-être une erreur, mais moi, j'avais une information comme quoi vous aviez fait Koh-Lanta une semaine.
Ça s'appelait pas Koh-Lanta.
Ah, ça s'appelait pas Koh-Lanta. C'était une sorte de Koh-Lanta.
Oui. L'île des célébrités.
L'île des célébrités.
Ah, ah donc vous êtes, on peut le dire, même si ça dépend des goûts, une assez jolie femme. Hein.
Ça dépend des goûts.
Oui, mais
vous avez été une candidate de télé-réalité ?
Oui.
Oui, mais à part des trucs bas de gamme, vous avez fait d'autres trucs quand même.
Voici un autre indice.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est
alors, Titoff, est-ce que ça vous aide?
Est-ce que vous avez interprété Brigitte Bardot au cinéma?
Non.
Non, vous avez besoin de réfléchir pour savoir.
Est-ce que vous êtes sur la Côte d'Azur, alors est-ce que vous habitez vers la Saint-Tropez?
Non plus.
Non, mais
est-ce que vous avez compris l'indice?
Oui. Est-ce que vous avez un QI d'huître?
Est-ce que vous avez compris l'indice?
Non.
Vous, oui. Parfait. Non, mais d'accord. C'est
est-ce
ça que
vous avez chanté cette chanson?
Non, c'est la plage. C'est la plage. Elle a un rapport avec la plage.
Est-ce que vous avez chanté ça?
Un rapport avec Brigitte Bardot.
Un rapport avec Brigitte Bardot.
Est-ce que c'est la coiffure? C'est que on vous connaît par une coiffure
est-ce
choucroute.
Est-ce que c'est la défense des animaux?
Non plus.
Est-ce que c'est les robes en Vichy? Est-ce que c'est la ville de Vichy?
Non.
Est-ce que vous avez couché avec Balkany?
Est-ce que vous aimeriez qu'on oublie que vous avez fait l'île de la Tentation ou son...
Non, de la...
C'est quoi qu'elle a
l'île
fait
des célébrités.
L'île des célébrités. Est-ce que vous préféreriez qu'on n'en parle pas?
Je ne l'ai pas fait en France.
Ah. Est-ce que vous avez une carrière internationale, hein?
Mmh. Vous avez beaucoup tourné en Italie.
Non.
Ah, voilà. Est-ce que la personnalité américaine avec qui vous avez eu une liaison est chanteur?
Non, acteur.
Acteur, d'accord.
Mais est-ce que c'est un bon coup?
Attendez au moins qu'on sache qui c'est.
Justement.
Est-ce que vous avez travaillé en Espagne?
Oui.
Ah ben ça tombe bien parce que j'avais ça comme indice aussi.
Y siempre la recordarán que viva España. La gente canta con ardor que viva España.
Alors, oui, non. Alors, moi, je crois que j'ai trouvé.
La personnalité américaine, est-ce que c'était Clooney?
Bon.
Ah, oui. Moi, je crois que j'ai trouvé.
Vous pensiez à Cécile ou Céline Balitran?
Doubles initiales.
Vous êtes Daniel Darieux.
Elle a trouvé. Ouais. Ah, je pense.
Alors attendez, un petit indice supplémentaire. Alors.
Ça, c'est des indices. J'ai trouvé.
Michel Bernier a trouvé. C'est la seule, Titoff?
Ah, moi, je sais pas. Non.
Non. Vous cherchez pas, Titoff.
Si, je cherche, mais bon.
C'est sifflé.
Alors, puisque Michel semble avoir trouvé, Michel, allons-y.
C'est Marlène.
Marlène Moureau qui va nous rejoindre dans un instant dans ce studio. Marlène est dans notre studio. Et moi, je dis à Michel Bernier, bravo, parce que c'est vrai quand même que Marlène, vous êtes de plus en plus absente en France depuis maintenant combien d'années?
15 ans.
Depuis 15 ans.
Ouais.
Et évidemment, mais...
Ça ne rajeunit pas.
Non, mais
en fait, c'est la vedette américaine qui m'a mis sur la vedette.
Bravo.
C'était qui?
C'est Steven Seagal, c'est
voilà,
ça.
Voilà. Alors, je ne savais pas que vous aviez eu...
Pas longtemps. Hein.
Non, ça
quand j'ai vu qu'il était marié avec Madame en rouge, j'ai dit, bon, bah, c'est bien, merci, au revoir.
Marlène. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Marlène.
Oui.
Au club de Malroulé, vous venez d'être refusé. Hein. J'ai essayé. J'ai jamais vu un avion comme ça.
T'as pas vu la dernière pub de Marion Cotillard? Regardez-moi dans les yeux.
Oui.
Alors, c'est vrai que le corps de Marlène a servi de doublure.
De Brigitte Bardot
pour la statue de la liberté qui fut offerte.
Le 100e anniversaire.
Voilà, au président. C'était quel président à ce moment-là?
Je sais plus, c'était en 86, je crois.
Eh enfin, ben, c'était Mitterrand.
Non, président américain. un président américain, Gérard.
C'est la doublure corps de Mitterrand, Marlène, j'ai rien compris, moi.
Marlène, qui avait d'ailleurs été lancée à un moment donné par Patrick Sébastien pour être candidate à l'Élysée.
Oh là là, c'était quelque chose aussi ça. Se présenter aux élections, d'ailleurs, ils ont préféré Chirac, je suis partie.
Il vous a tout fait faire, Patrick Sébastien.
Ah oui, j'aurais tout fait. La totale.
Vous avez reçu Marlène déjà.
Oui,
ça fait vachement longtemps que je ne l'ai pas revue.
Ben oui, ça fait longtemps.
Moi, j'ai jamais reçu, monsieur, le venir à la maison.
Ce qui m'amuse, c'est que franchement, autant je peux me tromper, mais autant j'ai l'impression que Duris te laissait absolument de marbre, autant Marlène manifestement t'intéresse. Je ne sais pas pourquoi. Sa carrière, sa blonde.
Ma bisexualité est plutôt Marlène que Duris.
Non, c'est vrai.
Ah bon, parce qu'il est bisexuel.
Ah oui.
Il est bisexuel.
Il peut prendre deux femmes à la fois.
Marlène a même fait partie de notre équipe ici sur Europe 1.
Ah oui, oui, tout à fait.
Vous êtes venu plusieurs fois avec nous.
Oui, non, ben.
Mais Pierre n'était pas là encore.
Je suis pas inhabituée parce que je suis pas là souvent, mais alors, c'est vrai que quand je viens.
Arrêtez de bouger.
Je peux plus la regarder, Marlène.
Mais non, mais il a le torticolis depuis tout à l'heure. Restez en face du micro, là. Voilà.
Elle est bête, elle me pousse. Elle fait rien comme pousser. Moi, je suis encore en gros.
Arrêtez de la toucher, Pierre.
Mais, oui. Mais attention, je vais faire des chats.
Je vais mettre une tapette. Chubby, c'est normal.
Mais c'est n'importe quoi. Hein.
Écoutez, non. Des fois, la semaine dernière, on avait Lévi-Strauss. Bah, qu'il était là, je disais pas.
Eh ben, c'est dommage. Au moins, ça aurait été inattendu.
Marlène, oui. Vous êtes pendant toutes ces années devenue animatrice à la télévision en Espagne.
Bah, j'ai fait un peu de tout. Animation, télévision, de réalité show. J'ai fait des shows de des spectacles de la réalité, des concours, de l'humour, de la télé. Comment on appelle ça? Des séries de télévision.
Qu'est-ce qu'il y a, Christine?
Je dis, pourquoi il s'écarte?
Pourquoi il s'écarte?
C'est pas ton genre.
Mais il a besoin de recul. Il a besoin de recul.
Non, mais alors vous avez pas vu voir les films en 3D, les garçons.
C'est pour avoir la main droite plus libre.
Ah non, mais il laisserait la gauche.
C'est vrai que vous êtes toujours.
Bah ouais, mais tu vois. Mais je suis en forme, moi. Je fais 2 heures de sport tous les matins.
Allez, on se met à l'aise, il fait une chaleur.
Ah, moi, quand on m'a proposé
mais
Marlène.
Vous me donnez chaud avec votre cravate, faudrait peut-être l'enlever.
Quand on m'a proposé Marlène comme invité.
Mais elle est malade, écoute.
Elle est en train de décravater Pierre. Mais Marlène, elle a toujours été
décravatée pour le cravacher.
Je me souviens que vous avez failli me violer une fois.
Ah bon?
Ah, si, je me souviens.
Mais ça vous a pas plu?
Ah, bah si, c'était rigolo.
Mais vous, on peut pas vous violer, vous êtes toujours d'accord.
Mais moi, j'adore Marlène. Parce qu'elle a.
C'est une nature.
Elle a un tempérament. C'est une nature. Non mais vous revenez quand vous voulez chez nous.
Ah oui, non mais moi je vous amène le soleil quand vous voulez.
Mais oui, non mais elle est géniale.
Je l'ai amenée dans ma valise, vous avez vu, depuis que je suis arrivée, il n'y a que du soleil.
Mais oui, ça nous change de Christine Bravo là. Ouais. Gna, 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 gna.
Oh, elle est méchante.
Ça c'est l'Espagne. Ça c'est.
Elle arrive, elle est même pas maquillée des fois.
Ça c'est l'Espagne.
Tandis qu'elle est toujours briquée, Marlène. Toujours nickel. T'as l'impression que tu vas au bal quand tu la vois.
Cette dernière saison, alors vous avez fait quoi, Marlène, par exemple?
Eh ben, la dernière saison, la toute dernière saison, donc j'avais fait les célébrités en Espagne. Et puis quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à manger, rien à boire, j'ai dit, je repars chez moi. Je suis arrivée sur l'île, je suis restée 3 minutes. 3 minutes, j'ai vu le décor. J'ai vu que l'eau, on ne pouvait pas nager, ni rien,
ah bon,
ni
pourquoi on pouvait pas nager?
C'était une catastrophe là où on était.
La dernière fois qu'on vous a vu en France, c'était dans la fameuse émission Première Compagnie.
Première Compagnie en 2005.
Ils vous ont proposé la ferme célébrité cette année ou pas?
Oui, mais j'ai pas voulu y aller.
Pourquoi?
Parce que j'avais déjà été faire. J'en avais déjà fait beaucoup, des trucs comme ça, et je trouvais ça fatigant. Au bout d'un moment, toujours la même chose.
C'est toujours fatigant en plus.
Oui, c'est très fatigant.
Moi, je me fais
non, mais à la ferme, on se fait chier, hein, mais à la Première Compagnie, on en chie. Hein.
J'ai beaucoup d'admiration pour vous, mais vous représentez pour moi une sorte d'idéal, et j'aspire à vous plaire et tout, mais arrêtez de dire on en chie, parce que c'est pas très joli.
Parce que ça, c'est ce qui est en train d'éprouver Pierre.
Marlène Moureau reste avec nous jusqu'à 18h30.
Ah bah c'est magnifique.
Marlène Moureau est toujours avec nous. Encore 5 minutes avec Marlène. Vous l'avez connue dans les émissions de Patrick Sébastien. Elle fut évidemment aussi. Regardez, bien embrassée.
La bouche.
Elle est violée, il dit d'accord.
Déjà, ce qui est drôle, c'est que quand elle a embrassé Pierre, elle a dit bonjour, monsieur Bénichon.
Je vais l'appeler comme ça, moi, maintenant.
Ça déteint, peut-être.
Je vais l'appeler Robert.
Vous l'avez connu, Marlène, aussi, dans l'émission concurrente sur RTL, Les Grosses Têtes, où elle a participé pendant...
Et oui, il y a
et puis ici, aussi, chez nous, dans la première compagnie sur TF1. Candidate éphémère à l'Élysée, lancée par Patrick Sébastien.
Oui, on a fait un poisson d'avril.
Doublure du corps de Brigitte Bardot pour la nouvelle statue de la liberté offerte à un président américain. Choisie par le magazine Playboy américain en 92 pour incarner Marilyn Monroe en photo pour l'anniversaire des 30 ans de la disparition de Marilyn.
Oui, tout à fait.
Et puis alors, ce prénom, Marlène, oui. C'est votre vrai prénom au départ ?
C'est le vrai prénom, puisque mon père était le chauffeur de Marlène Dietrich en 69, quand je suis née, donc à l'habitat avenue Montaigne.
Déjà, elle est née en 69.
Bah voilà, ça commence bien.
Et j'avais ça comme indice.
Alors, on n'avait pas le choix. By the corner lights, I'll always stand and wait for you at night. We will create
a world for two. I'll wait for you. Mais vous-même, Marlène, vous avez chanté.
Mais moi, je chante pour mon spectacle, puisque pour être danseuse, c'est facile d'être danseuse parce que tout le monde est danseuse. Hein, mais pour être la vedette, il faut chanter. Donc, j'étais obligée d'apprendre à chanter pour pouvoir faire mes spectacles.
Vous faisiez des revues là-bas à Madrid.
Donc, j'ai monté ma propre revue qu'on a.
Madrid ou Barcelone.
Nous avons tourné sur toute l'Espagne, dans toute l'Espagne et l'Amérique latine aussi, puisque l'émission que j'avais sur la télévision espagnole faisait 77 millions de téléspectateurs. Et donc, on est parti.
Quoi
on est parti. 77 millions.
Ah ouais, tu vas voir.
Ça calme, hein, Christine.
En
Espagne, dans le monde.
Oui, parce que la télévision espagnole se voit sur toute l'Amérique latine, c'est ça.
Et vous avez chanté, par exemple. C'est génial, on appuie sur un bouton, elle s'allume. Hein.
Ah oui. Ça ne donne pas plus envie que Rina Ketty.
Quelle simplicité.
Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ?
Je dis quelle simplicité, quelle... Quel
77 millions de téléspectateurs.
Mais oui, mais elle a une joie enfantine en elle. C'est pas.
Plaisir. Mais non, mais je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je regarde pas la télévision partout. Moi, je regarde les articles dans les journaux. Dit, ah, l'émission, elle s'est maffolo. Elle a fait 77 millions de téléspectateurs. Alors, moi, je lis ce qu'il y a écrit.
Et ce qu'on m'a apporté là, c'est quoi alors?
Ah, ben ça, c'est le nouveau single que je viens d'enregistrer sur, qui s'appelle Pure. Enfin, Pure, comme vous voulez le dire. Et c'est en fait une chanson que j'ai fait par rapport à ma marque de vin.
De vin, vous faites dans le vin.
Du vin aussi.
Ça alors.
C'est du rosé, c'est du rosé. Pur rosé.
Et tu vois, toi, tu fais des body pour les enfants.
Et donc, en fait, comme la marque s'appelle Pure, bah, j'ai fait le titre qui va avec la chanson pour faire le vidéoclip de la publicité du vin.
Moi, je boirais bien un coup.
Mais voilà.
Mais ça, alors,
moi, j'aurais dû vous l'amener. Tiens, de bon.
Je savais pas que vous étiez dans le vin.
Ah,
alors.
Oui.
On écoute en tout cas votre chanson Pure.
Allez.
J'ai vu Pierre Bénichou danser, il a dansé dans le
studio. Marlène est de retour.
Monsieur Bénichou, vous êtes endormi tout d'un coup, là.
Pardon, pas du tout, vous n'allez pas commencer comme l'autre.
Marlène est de retour en France pour combien de temps chez nous?
Eh bien, au moins pour cette année.
Ah, très bien.
Ah oui,
on va vous
très
demander...
bien, vous allez vous prendre rendez-vous peut-être.
Non,
vous voulez prendre un petit rendez-vous avec moi?
Laissons faire le hasard.
Ah, le hasard.
Mais ce soir, tu m'as dit que tu étais libre, Pierre. Hein.
On va vous demander de revenir ici avec nous de temps en temps parce que
ben oui,
on se marrait bien avec vous. Comment vous avez trouvé Marlène, vous, Michel, alors?
Mais comment je l'ai trouvée? Parce qu'en fait, je l'ai connue il y a quelques années quand elle faisait quelques émissions sur TF1 et qu'on s'est croisés quelques fois. Et c'est vrai que c'était une personnalité, c'est-à-dire qu'elle a été certainement un peu maltraitée par les médias parce qu'elle avait ce côté très structural, très comme ça, très très libre. Elle a toujours été une femme un peu comme ça. Donc moi, ça me parle toujours, moi, les gens qui sont péchus comme elle. Et donc on s'était croisés quelques fois. Voilà. On s'est croisés quelques fois et voilà.
Elle est péchue, puis elle a été pécho aussi.
C'est l'adjectif qu'on peut.
Et elle aime pécher.
Elle
est sans préchi précha.
C'est des bons souvenirs avec elle parce que non, mais elle a un côté très libre avec tout ça, ce qui est très agréable.
Vous voulez pas laisser ma gonzesse tranquille un peu, j'en ai marre.
Christine, soyez pas jalouse.
J'étais en train de calculer quel âge elle avait.
Oh. Marlène, merci d'être venue
merci
nous voir.
Merci Laurent, merci à tous.
Et
merci aux auditeurs.
Open table pour
allez,
vous
merci
ici.
Beaucoup, à bientôt. Mouah.